Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, émission exceptionnelle encore une fois, vraiment on a de la chance cette semaine, magie de la Coupe d'Europe, la magie, voilà, écoutez, encore un autre club en demi-finale de Coupe d'Europe, ça fait plaisir, deux clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas tous les ans que ça arrive, on va en profiter bien sûr, et pour en profiter, ce soir on a un invité exceptionnel, c'est Mehdi Benatia qui va être là dans quelques secondes. Il est dans les coulisses, il est là, il arrive,
il est dans le couloir.
Passer sur le grill. Ouais, mais bon, arriver, c'est un bon grill, hein, parce que hier il s'est passé quelque chose de magnifique. Hein, Jean-Louis Tour.
Et oui, Jean-Louis. Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah, Jean-Louis.
Magnifique, deux clubs français en demi de Coupe d'Europe.
Magnifique.
Qu'est-ce qu'on aime
le
pas.
Foot français est de retour. Mmh. On l'avait enterré.
Tu l'avais enterré.
Ah, bon. On a notre champion du monde. Déjà, je vais te présenter avant que tu me parles. Manu Petit.
Bonsoir tout le monde.
Salut Manu.
Non, mais je répète ce que je viens de dire. Non, de toute façon, ça sera un débat tout à l'heure.
Exactement.
Donc, regarde, ça tombe bien.
Et oui, parce que ce soir, Roten sans flamme.
T'as pas dit hier que c'était impossible ? Juste, voilà.
Impossible n'est pas français.
Ok. Roten sans flamme ce soir sur la semaine européenne qui se termine donc avec deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe, l'OM et le PSG. Alors, ceux qui, comme toi, Jérôme, ont critiqué le niveau de la Ligue 1 depuis le début de saison seront accusés d'être tombés dans le pessimisme.
T'es pas patriote.
Moi hein. Et tu dis pas ça. Hein. moi, j'ai défendu la patrie. Hein. Viens me le dire en face.
Viens me le dire en face.
Je suis en face.
Ce sera à 18h30.
Regarde, tu recules.
Faites entrer l'accusé comme tous les soirs. À 19h, notre multiplex. Avec donc un nouveau week-end où les matchs de Ligue 1 vont être reportés. Pas ce week-end-là, hein, mais plus tard. Les matchs de Ligue 1 vont être reportés pour favoriser les clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Les matchs de Paris et de Marseille vont donc être décalés entre les deux dernières journées de Ligue 1. Ils sont en train de fausser le championnat. On fera le débat avec nos correspondants qui seront là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Manu ?
Non, mais sérieux ?
Oui, sérieux. On en parlera tout à l'heure. À 18h45, le Casar enchaîné reviendra sur la soirée magique qu'il y a eu hier au Vélodrome où le stade s'est embrasé.
Le Vélodrome est bouillant, c'est parti à l'instant.
Imagine juste, cette équipe fait une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est plus qu'un miracle.
Allez, Aminarit qui récupère le ballon, l'autre lance en réparation, la paix. C'est trop téléphoné avec un ballon finalement récupéré par Soglo, la faute derrière.
Miracle.
Avec Aubameyang. Allez. Aubameyang qui va défier. Aubameyang qui va centrer. Aubameyang.
Double miracle.
Séance de tir au but à venir. Henri Maria, la course, l'élan, le trépignement. Le poteau. Qui sauve Paul Lopez.
C'est parti. Le pénalty, le tir au but pour envoyer l'Olympique de Marseille en demi-finale de Coupe d'Europe. Luis Enrique qui s'élance, qui frappe et qui marque. Goal, 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 goal.
Bien joué.
Luis Enrique qui envoie l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe.
Voilà, qui est l'abruti qui a pas cru?
Ah bah ça,
hein, il est où, hein? Sortez-le-moi.
Eh oui, on a entendu Florent Germain en commentaire, mais j'imagine que Jérôme, c'était pareil chez toi à ce moment-là, au moment du but de Luis Enrique.
Ah ouais, j'avais préparé feu d'artifice.
Hein. Au bout de l'effort, au bout de la nuit, l'OM a donc sorti Benfica pour s'offrir une demi-finale d'Europa League. Ce sera face à l'Atalanta de Bergame début mai. Au bout de l'effort, parce que l'OM a fini avec des joueurs qui avaient des crampes, des gamins également, des gamins, qui sont rentrés pour pallier les blessés. On en parlera tout à l'heure avec Mehdi Benatia, donc notre invité exceptionnel, le conseiller du président Pablo Longoria. Mais d'abord, Florent Germain nous rejoint.
Il est là, frère.
Ah, l'homme de la soirée.
Qui n'y a pas cru, c'est dingue ça, ils sont où
les imbéciles qui n'ont pas cru maintenant là.
Ah, c'est dingue.
Ah, ils vont manger leur
chapeau. Les éoliennes d'aujourd'hui,
ils vont manger leur chapeau.
Alors Flo, qu'est-ce que tu retiens de fort de cette soirée d'hier?
Écoute. Déjà je vais revenir sur un petit échange de mercredi que j'aime beaucoup raconter. C'était après la conf de presse de Jean-Louis Gasset. Je le croise, il était près de la voiture en train de repartir vers la commanderie. Il a une petite clope au bec et on discute de tout et de rien. Je finis en disant bon match demain. Il me dit non, c'est pas la peine, on n'est pas obligé de faire un bon bon match pour se qualifier. On peut faire un match pourri et un coup d'embrouille et on passe. Et j'ai l'impression qu'il avait tout vu avant tout le monde, parce que c'est vrai que c'était un match un peu compliqué où il y a eu un Marseille qui a souffert, qui a donné de son corps avec des minots donc sur la pelouse, un Veretout sur une jambe, et au final des scènes de joie, c'est vrai, assez puissantes. Samuel Gigot qui prend le mégaphone au pied du virage sud, lui qui il y a 20 ans quasiment jour pour jour était en virage lors du OM Inter en Coupe de l'UEFA, donc forcément il était très ému. Comme un symbole, c'est l'un des minots, Raïman Daou, qui a lancé le cri de guerre dans le vestiaire. Et autour des joueurs, il y avait aussi tous les blessés qui étaient là, de Tlos à Rongier, en passant aussi par ceux qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc il s'est passé quelque chose dans le vestiaire, et j'imagine que certains blessés doivent se dire bon allez, on va mettre les bouchées doubles pour revenir au moins pour la demi-finale. Et puis dans les mots de Pablo Longoria, qui était entouré de Mehdi Benassia notamment, il nous en parlera tout à l'heure, le président de l'OM a insisté sur le sens du sacrifice et le fait que rien n'est encore gagné. Évidemment, une demi-finale c'est bien, mais maintenant faut aller au bout, parce que le rêve c'est qu'en plus un trophée européen en Ligue Europa qualifie pour la Ligue des Champions. Donc au bout d'une saison galère, ce serait quand même un sacré pied de nez pour tout le monde.
Flo reste avec nous, puisqu'au lendemain donc de cette soirée exceptionnelle, le conseiller de Pablo Longoria, le conseiller du président, Mehdi Benassia, est dans Rotten Sans Flamme.
Salut Mehdi.
Salut les gars, comment ça va?
Bienvenue Mehdi. Bon, heureux certainement, bravo déjà pour hier, et très certainement heureux.
Ouais, on est heureux. Après, vous savez bien que ça a été une saison qui n'a pas toujours été simple. Donc aujourd'hui, franchement, voir l'équipe jouer à ce niveau avec autant de sacrifices, autant de dons de soi, forcément, quand tu vois ce stade, voilà, en fait, comme ça a été le cas hier, je pense que voilà, les supporters qu'on a eu depuis le début de la saison, malgré les résultats, ils méritent ce genre de soirée, encore un peu plus souvent, même plus régulièrement. Donc forcément, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, parce que voilà, on a beaucoup galéré cette saison, surtout les joueurs aussi, ils ont beaucoup souffert. Et ils ont vraiment mis ce qu'il fallait hier, en tout cas pour ce match comme ça de Coupe d'Europe. Il y a des choses qu'il fallait mettre dans l'intensité, dans l'abnégation, et ils ont répondu présent. Donc je suis content vraiment pour les supporters, pour le président, pour les joueurs, c'est bien.
Mais dis, toi qui a été le joueur avec la personnalité qu'on connaît, c'est-à-dire cette personnalité de défenseur qui lâche rien, qui va au bout, qui donne tout, très certainement tu veux apporter ça en tant que dirigeant aujourd'hui, et c'était ta priorité. On t'a entendu sur certaines déclarations, et moi je trouve que c'est bien, parce que je trouve que par moment ça manque un peu trop de professionnalisme à tous les étages dans ce genre de club. Donc à mon avis, j'imagine que vu l'état d'esprit affiché par les joueurs hier, tu dois être très heureux de ça, quoi.
Ah, Jérôme, tu sais, hier, j'en parlais un peu avec le presse à la fin du match. Ce genre de soirée, pourquoi pour moi elle est magnifique, au-delà de la qualification, parce que tu pouvais passer comme t'es passé contre Villarreal, et on va être honnête, on s'est dit putain, c'était un peu juste. Voilà, on s'est fait peur au retour, tu vois. Là, sur un match comme ça, quand je vois des mecs comme Léo, comme Veretout, quand je vois Chancel et Murillo qui étaient à peine remis et qui sont là, qui sont à disposition, tu vois les mecs finir avec les crampes, tu vois les petits Raymond Daou, tu vois Gaël Lafont qui rentre, personnalité, les mecs qui vont au mastic, qui vont... Voilà, moi, là, une soirée comme ça, tu dors tranquille. Ce club-là, c'est ce que je dis toujours, quand tu viens à l'Olympique de Marseille, pour moi, ça se négocie pas, ça. C'est le minimum que tu dois donner à tous les matchs. Après, je te garantis, Jérôme, t'as joué des matchs, on en a perdu des demi-finales, des finales.
Bien sûr.
Quand tu mets ce genre d'ingrédients et qu'à l'arrivée, ben putain, tu tapes la barre et que tu prends un but en contre-attaque et que tu perds 1-0, eh ben tu dis bravo au mec parce que t'as tout donné. Et moi, c'est ce qu'en tout cas, en tant que conseiller, j'essaye d'expliquer à certains, s'il faut encore l'expliquer, malheureusement, aujourd'hui, tu sais comment c'est bien de répéter les choses. Ça, c'est quelque chose que dans ce club, quand tu décides de venir, ça doit être le minimum. Voilà. Après, la réussite, la technique, moi, j'ai jamais parlé avec un joueur pour lui dire, écoute, la passe, t'aurais dû faire ça ou ça, je me permettrais pas.
Mais
je pense que dans les ingrédients, comme tu as dit, hier, le dépassement de fonction était présent. Voilà, c'est le genre de soirée qui vraiment te donne envie de repartir, de te dire voilà, c'est le moment de faire une vraie fin de saison en mettant ce genre d'ingrédients. Et même pour le coach, tu vois, on sait qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs, il y a eu beaucoup de changements, c'est pas simple aussi. Mais voilà, un mec comme Jean-Louis, j'ai envie de le mettre aussi aujourd'hui dans la lumière parce que voilà, tu sais qu'on a été un petit peu critiqué au départ, ça n'a pas toujours été facile. Et il vient, on a passé 3 tours de Coupe d'Europe aussi. Donc ok, il y a des résultats qui sont... on attend encore beaucoup, hein, même en championnat. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup mieux en championnat parce que c'est notre pain quotidien. Mais c'est vraiment un travail de tout le monde et ce genre de soirée, en tout cas, dans vraiment dans ce qu'on a mis, moi, c'est ce que je retiens. Au-delà du résultat, c'est vraiment la manière d'aller au cœur, au courage. Et cette ville, en tout cas, ses supporters, ils méritent ça.
18h09 sur RMC, Mehdi Benatia en direct dans Rotten sans flamme. Question de Manu Petit.
Oui, bonsoir Mehdi. Ma question est toute simple. Vu votre parcours, et vous êtes à quelques encablures d'une possibilité de jouer une finale. Alors, il y a la demi qui va arriver. Elle s'insère également avec des matchs de championnat qui sont quand même relativement costauds pour vous. On connaît la dynamique en championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez tout reporter justement sur la Coupe d'Europe au détriment du championnat, dans la mesure où vous êtes un peu distancé par rapport justement à la fameuse place européenne qui qualifie en Champions League directement? Vous êtes à 10 points, je crois, donc ça quand même, il reste 6 matchs à jouer, 18 points possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas reporter tous vos efforts sur le parcours européen avec une éventualité d'être européen pour la saison prochaine? Et je ne veux pas dire bazarder le championnat, mais quand je vois les blessés, quand je vois les difficultés qu'il y a au niveau de l'effectif, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire un choix?
Manu, tu sais, la réponse, elle se retrouve un peu dans la question précédente. Quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas faire de compromis. Aujourd'hui, même si les joueurs, ils sont comptés, hein, je te dis la vérité, j'ai regardé encore tout à l'heure la salle de son. Hein. C'est, voilà, c'est pas évident, on préfère en rire, mais malheureusement, voilà, c'est la période, ça fait partie. Voilà, des fois, il y a des saisons un peu plus compliquées que d'autres. Cette saison, pour le coup, on n'a pas été chanceux avec tout ça. Mais à Marseille, tu ne peux pas faire de compromis, tu ne peux pas dire je fais l'impasse sur le championnat. Tu te dois d'aller.
Non, mais peut-être faire reposer des joueurs en vue justement des échéances européennes à venir qui sont quand même très importantes pour
vous. Mais ça voudrait dire mettre de côté le championnat. Sauf que moi, le championnat, c'est mon pain quotidien.
Vous avez le choix,
si j'avais une garantie de gagner la Coupe d'Europe et de jouer la Ligue des Champions, je te garantis, j'aurais envoyé peut-être même l'équipe réserve. Quand on voit les jeunes, comment ils sont comportés hier, peut-être que je me serais dit, on va faire des résultats. Mais aujourd'hui, j'ai aucune garantie d'aller gagner la Coupe d'Europe et de jouer la Ligue des Champions. Ouais. Et surtout, quand tu es aujourd'hui Olympique de Marseille et que tu vois nos derniers résultats, on peut pas accepter ça. Tu dois avoir un certain niveau de performance. Tu dois te dire que ce match d'hier, pour moi, indépendamment de Bergame qui va arriver et qui ne sait pas encore, il doit t'aider à préparer au mieux possible Toulouse et d'aller recevoir Nice en te disant voilà, c'est le match à gagner aussi pour recoller. Et après, tu peux te retrouver à faire une fin de saison qui, pour le coup, ressemble à une vraie fin de saison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que le président le voit aussi. Voilà, si tu... L'autre jour, j'en parlais avec quelques joueurs. Quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu peux pas accepter de perdre 5 matchs d'affilée. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez, Manu, tu as fait des grands clubs, Jérôme aussi. Dans un grand club, tu ne perds pas 5 matchs d'affilée. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas.
Non, mais je sais aussi.
Il y a des choses.
Mehdi, excuse-moi de t'interrompre, mais je sais aussi que dans les grands clubs, fonction de ce qui t'arrive en termes de résultats sportifs sur les compétitions dans lesquelles tu joues, il peut y avoir un réajustement aussi, une variante sur les objectifs en fin de saison, en fait.
Oui, mais pour moi, en tout cas, c'est ma position. Après, encore une fois, il y a le président, il y a le coach qui fait son équipe. Hein. Et quoi qu'il arrive, on est là pour respecter, pour conseiller, évidemment. Mais ce serait trop risqué de se dire, attends, je vais faire reposer tout le monde. L'objectif, c'est taper Bergame pour espérer. Non, pour moi, tu peux pas penser comme ça.
C'est 3 matchs.
T'as des matchs à jouer qui sont à ta portée. Parce que une chose que je suis, par contre, que je peux garantir aujourd'hui, c'est que si on met les mêmes ingrédients qu'on a mis hier, je suis persuadé qu'on va en prendre des points jusqu'à la fin de l'année.
Bien
exactement.
Ça, c'est clair.
Tu vois ce que je te dis? Donc c'est aussi ça. Après, je sais que physiquement, on a vu, hein, les mecs, ils ont puisé, comme je dis, dans les réserves. Tu as fini avec Luis Enrique arrière gauche, avec Kondogbia central. Voilà, c'est plus ce côté, ce comportement que je veux mettre en avant aujourd'hui, qui pour moi, et voilà, on peut pas revenir dessus.
Et vous,
la base de tout succès.
Florent Germain.
Vous qui revenez de l'infirmerie, Mehdi, justement, c'est quoi les dernières nouvelles? Parce que, de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai vu autour du cri de guerre, il y avait des yeux qui pétillaient, ceux de Jonathan Clauss, Ismail Assar. Il y a des joueurs qui sont pas trop loin de revenir, mais est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux et sur qui rapidement là?
Le problème, c'est que il y a encore aujourd'hui, c'était vraiment le décrassage. Il y avait un peu de tennis ballon pour ceux qui n'ont pas joué. Donc voilà, ceux-là, tous les joueurs que tu m'as cités, ils sont en train de faire un programme un petit peu à côté, personnalisé. J'espère retrouver ça. J'espère retrouver Clauss le plus vite possible aussi. Après il y a t'as encore un petit souci avec Chancel aussi, donc il va falloir contrôler un peu tout ça. On a encore un petit peu de temps, mais je pense que pour Toulouse, ça va être un petit peu juste pour récupérer les joueurs qu'on a cités. J'espère contre Nice.
Mais voilà, on va, c'est sûr qu'on est compté. Hein. La vérité, c'est qu'on est, on est compté. Le coach, chaque match, je le vois, il est en train de se faire un casse-tête pour essayer d'aligner un 11 type qui ressemble à, entre guillemets, à, voilà, un 11 type sérieux. Parce que des fois, il est obligé de demander à des mecs de jouer à des postes qui ne sont pas les leurs. Et c'est la vérité. Mmh. Mais pareil, dans un club comme l'Olympique de Marseille, ben voilà, tu sais que des fois, il y a un dépassement. Et il faut le faire. Il faut le faire. Et quand on voit la réussite hier, tu te dis que des fois, ça en vaut la peine aussi. Hein.
Mais dis-moi, toi qui as été formé à l'Olympique de Marseille, t'as pas forcément eu ta chance de jouer au niveau professionnel. Là, il y a deux jeunes qui ont fait leur apparition hier,
qui ont fait Daou et Lafon,
et qui ont fait des belles choses en plus en rentrant. Donc, est-ce que le futur de l'OM, avec ton projet, avec votre projet, c'est aussi ça, incorporer un peu plus de jeunes, s'appuyer sur des jeunes, ou là c'est juste de passage, parce que par rapport à tout ce que tu viens de dire, les blessures, les ceci, les cela, il ne faut pas espérer que Marseille continue dans cette voie-là avec les jeunes.
C'est exactement ça a été un des points prioritaires quand j'ai rencontré le président avant que j'arrive au club. Je sais que pour lui c'était très très important de pouvoir chaque année incorporer 4-5 joueurs les plus talentueux du centre avec le groupe pro. Mmh. Parce qu'aujourd'hui quand on voit le vivier qu'il y a à Marseille, quand on voit comment ça bosse ces dernières années, on voit les résultats en 17, en U19, on voit que depuis Jean-Pierre aussi a repris l'équipe réserve, on voit que ça va beaucoup mieux. Donc tout ça c'est quelque chose où il faut bâtir. Moi, chaque année, c'est mon projet, et Pablo le sait, c'est ce que je lui conseille. Il faut être capable de mettre 4-5 mecs qui vont amener un peu de, tu sais, un peu d'insouciance, et t'en as besoin dans un groupe. Pour celui qui pense parfois que peut-être son poste, il est. Non. Et moi, c'est ce que je leur dis aux jeunes quand ils montent. Des fois, ils rigolent, mais je leur dis, les gars, le respect, c'est jusqu'à là. Quand tu rentres sur le terrain, il n'y a plus de respect. Il faut gagner ta place. Et il y en a qui rigolent parce qu'ils sont un peu surpris, mais c'est ce que je leur dis, et c'est la vérité. Et nous, à notre époque, on pensait de la même façon.
Ouais.
Quand tu croisais les anciens, bah, t'étais là, t'étais tout doux parce que c'est normal, mais quand tu rentres sur le terrain, s'il y a un ballon entre deux, c'est moi qui vais mettre le pied, je vais repartir avec le ballon parce que j'ai une carrière à faire, parce que je dois avoir faim. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont ce comportement-là, qui ont cette attitude-là, et je pense que rapidement, ils vont compter, en tout cas, je l'espère.
Mehdi, t'as pris un vrai virage dans ta carrière professionnelle, du moins ton après-carrière. T'as été un joueur qui a gagné beaucoup de trophées, qui a joué dans des grands clubs, et ça, le CV il parle pour toi. Derrière, tu t'es occupé de certains joueurs aussi, et là tu deviens donc directeur sportif, dirigeant d'un club comme l'OM. Est-ce que ce rôle-là te convient bien? Comment tu te sens dans ce rôle-là?
Bon, je suis pas tout à fait dirigeant, je suis conseiller.
Oui,
c'est important de le modifier parce que. Mais non, je me sens bien. Écoute, moi comme je dis, je suis venu. Voilà, c'est un club que je connais. Comme tu as dit, j'ai eu la chance d'être formé ici. J'ai ma famille qui vit encore ici, donc voilà. J'aurais tellement aimé ne serait-ce qu'une année, voilà, représenter un petit peu ce club quand j'arrive hier à 6h30 au stade et que je vois tous les supporters devant le stade, c'était déjà plein. Ben moi, ça me parle, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu à la Roma, ça me rappelle ce genre d'ambiance. Mmh. Et tu te dis, mais comment ce soir on va pas se qualifier, c'est pas possible, tu vois. Donc forcément, ça te donne envie de rejouer. Donc voilà, quand Pablo m'a appelé pour me dire, écoute, j'ai besoin de toi sur tel projet, forcément, ça a été pas une décision facile parce que c'était beaucoup de sacrifices en termes de famille, etc. Moi, j'ai pas la famille avec moi, donc bon, il y avait beaucoup de choses à gérer. Mais honnêtement, c'est difficile de refuser un projet comme ça, un club comme ça. Alors attention, c'est pas facile tous les jours. Depuis que je suis arrivé, il s'est passé beaucoup de choses. Les résultats, je suis arrivé au mois de novembre, on était, je crois, à 4 ou 5 points du premier relégable. Donc depuis le début, en fait, ça a été compliqué. Mais c'est quelque chose qui est plaisant, c'est quelque chose qui... Je m'y retrouve en tout cas. Moi, j'aime le foot, c'est ma passion, j'aime que ça. Genre, tu sais, c'est la seule chose.
Vrai. Donc... Et est-ce que tu veux t'inscrire dans la durée? Ça te plaît? T'es là à moyen terme, à court terme, à long terme?
Ah non, moi je suis là tant que le président aura la force de mener à bien ce projet. Il le sait, j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui. Je suis venu aussi pour lui. Donc voilà, lui aujourd'hui, je sais qu'il est sur un projet de 3 à 5 ans. Mm-hmm. C'est sa vision à lui, voilà, c'est la vision des responsables, des propriétaires. Donc moi je suis totalement lié au président.
Donc il sera encore là pendant 3 à 5 ans.
Ah bah oui, c'est ce que je souhaite et c'est ce que lui souhaite et c'est ce que les dirigeants souhaitent. Après, vous savez, dans le football, moi je suis pas, voilà. Mais pour nous, en tout cas, la vision, elle est très claire. Aujourd'hui, quand on parle de jeunes joueurs, quand on parle, on envoie des scouts sur des mecs de 18-19 ans, c'est pas pour partir dans 6 mois ou dans un an.
Mais et d'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Louis, il y a Jeff Ingram qui est le bras droit, l'un des bras droits de Franck McCourt, qui était au stade au Vélodrome, qui est à la commanderie aujourd'hui et qui transmet aux équipes, d'après ce que je sais, la confiance de Franck McCourt. Et j'avais juste une petite question pour Mehdi, ce rôle important en coulisses, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'échanges, que parfois il a fallu un peu bouger Pierre-Emerick Aubameyang dans le bon sens du terme, en lui disant allez, faut pas hésiter à pourquoi pas dire les choses à tes coéquipiers. Est-ce que ça a été un rôle majeur justement pour relancer Pierre-Emerick, pour lui faire prendre conscience que certains ont des rôles de leader et qu'il fallait un peu s'assumer quelque part et pas hésiter à bousculer le coéquipier? Je crois que ça faisait partie du discours important, Mehdi.
Honnêtement, je peux pas avoir la prétention de dire que je me suis permis de bousculer Pierre-Emerick Aubameyang, pas du tout. J'ai simplement, entre guillemets, à mes débuts, effectivement, rappelé à Emerick au combien il était un joueur important. Parce que moi, quand j'arrive à l'Olympique de Marseille, forcément, je vois beaucoup de bons joueurs. Mais comme on dit, les très grands joueurs, je vois déjà Aubameyang pour commencer, parce qu'il a fait une carrière incroyable. J'ai eu la chance de jouer contre lui. Bayern Dortmund, je sais ce que ça représente de jouer contre Aubameyang. Et je lui ai dit à ce moment où il était un petit peu moins bien, effectivement, voilà, que c'est un joueur qui, pour moi, la bonne saison de l'OM passera forcément par la bonne saison d'Emerick Aubameyang. Et je lui ai dit parfois, même si c'est quelqu'un, on connaît sa famille, on sait comment elle a été éduquée, c'est quelqu'un de très très bon avec le groupe, de très gentil, très patient, toujours dispo pour ses coéquipiers. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, t'es la star de l'équipe. Donc si toi tu tournes pas, les gens ils vont s'en prendre à toi parce que c'est le raccourci et c'est plus facile. Et c'est pas mérité, parce que moi je le voyais à ce moment-là où il marquait un petit peu moins, mais il travaillait encore plus. Donc aujourd'hui c'est que par son travail qu'il en est arrivé là. Et c'est pas fini, parce qu'on sait très bien qu'il est en train de faire une saison incroyable. Beaucoup ont douté de lui, moi je voyais la data, je vois comment il s'entraîne. C'est loin d'être un joueur qui était cramé il y a 6 mois et il est encore moins aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui il est en confiance, il met des buts venus d'ailleurs. Et même quand il marque pas, il est décisif sur des actions de classe comme il sait faire. Donc dans l'attitude il est irréprochable. Hier je l'ai vu bouder sur un coup franc qu'il n'a pas pu tirer parce qu'ils ont fait une combinaison. Il a boudé comme un enfant. Mais c'est ça, c'est la passion. Eh c'est la passion d'un mec qui a envie de marquer des buts, qui a envie de rentrer dans l'histoire. Et je pense que même les jeunes du groupe, il faut qu'ils regardent des joueurs comme ça. Parce que c'est eux qui vont nous emmener là-haut.
C'est pas parce que vous êtes là ou parce que l'OM est allé loin en Ligue des Champions, en Europa League, qu'on va renier aussi tout ce qu'on a dit dans Rotten sans flamme depuis début d'année, notamment sur un effectif limité en termes de qualité. Est-ce que cet été, au mercato, vous avez la certitude qu'il y aura des gros mouvement pour augmenter en qualité cet effectif?
Parce que là, Mehdi, t'as réussi, mais il y a eu beaucoup de bricolage quand même.
Jérôme, aujourd'hui, je te garantis, moi, je me considère pas avoir réussi. Comme j'ai dit, quand tu viens sur un projet, le but, quand tu viens d'un club comme Marseille, c'est d'essayer de se qualifier chaque année pour la Coupe d'Europe. Donc à moins de faire un miracle, on n'y sera pas. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un échec. Même si je suis arrivé qu'au mois de novembre, tu peux... Les erreurs qui ont été faites avant ou pas, c'est les miennes, je les prends pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu ici pour travailler en équipe. Aujourd'hui, bien sûr, il va avoir envie d'avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Mais quand on prend Villarreal à domicile, quand on prend le match d'hier, tu sais qu'indépendamment de parler des hommes ou des joueurs qui composent cette équipe, c'est surtout le comportement qui va te faire avoir des résultats. Donc l'année prochaine, si on doit changer 2-3 joueurs, il va sûrement y avoir des changements, et ça c'est normal dans une saison, il y a des départs, il y a des arrivées. Mais il faut avoir des mecs qui soient conscients que venir à l'Olympique de Marseille, ça demande une certaine exigence. Et si on a ça, je pense qu'on aura une bonne saison. Mais c'est clair que cette année, c'est ce qui est manqué un petit peu, et je le dis parce que je l'ai dit déjà avant, je l'ai dit aussi aux joueurs, parfois il a manqué cette mentalité un peu de conquérant, d'aller chercher les résultats. Quand je vois le match à Rennes, quand je vois le match à Brest, quand je vois le match à Lille, je me dis pas qu'on a fait un match pour aller attraper la 4e place. Et ça, c'est ce qui te fait, tu rentres chez toi le soir et tu dors pas, parce que tu peux pas manquer dans ce domaine-là. Tu peux pas avoir que les 6-7 premiers mecs dans les duels gagnés, y a pas un Marseillais parfois. Ça, c'est ce qui m'a un peu brûlé cette année. Parce que quand on a ça, quand on met les ingrédients, il y a une très belle équipe, il y a des joueurs. Quand on voit le match de Kondogbia encore hier soir, quand on voit le match de Léo Bellardi, ça fait depuis 6 mois, 7 mois, j'entends que Léo, il est, c'est pas un... aujourd'hui, on parle d'un top défenseur. Et je parle de lui, je pourrais en citer 2 ou 3, mais il y a des mecs ici qui ont de la qualité.
Mehdi, je te coupe, excuse-moi, mais c'est ce qui te permet aujourd'hui, ce qui vous permet d'être en demi-finale de Ligue Europa, du moins tu cites t'as cité Aubameyang, ce qui est normal, encore hier c'est lui qui fait la différence, tu cites Kondogbia au milieu de terrain et on n'avait pas de doute sur son niveau, tu cites Balerdi derrière parce que je suis entièrement d'accord avec toi, hier sur le match d'hier, enfin Paulo Lopez a sorti le gros match qu'il fallait, donc en fait...
Et Veretout, Jérôme aussi quand même.
Les quatre que je viens de te citer, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est ça qui te permet aujourd'hui d'être aussi en demi-finale d'Europa League. Mais pour être un peu plus régulier en championnat l'année prochaine, tu sais très bien qu'il faut greffer à ces quatre-là d'autres joueurs avec la mentalité certainement, mais aussi un peu plus de pied, de créativité, de technique, non ?
Ouais, il faut. Moi, je dis surtout aujourd'hui, ce qui nous a manqué, après, c'est que mon constat, moi, je les vois au quotidien, c'est un peu plus de cœur à certains moments. Mmh. Après, comme je dis, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une équipe comme Brest, par exemple, parce qu'ils font une saison incroyable. Et tous mes respects pour Brest, pour son président, son directeur sportif, son coach. Depuis que le coach est arrivé, franchement, ils sont remarquables. Ouais. Ça fait presque un peu plus d'un an maintenant qu'on voit les résultats qu'ils ont. Tu dis bravo. Ben, je m'estime pas avoir un effectif en dessous en termes de qualité que Brest. Mmh. Et pourtant, on a été chez eux. Ils sont retrouvés à 10. Ils ne sont pas dit, bon, bah, on va laisser Marseille derrière.
Mais c'est pas la même pression aussi. C'est pas
oui,
la même pression,
la pression quand tu joues au football, Jérôme. Ouais, mais moi, après ça, peut-être que je me trompe, mais moi, là, quand tu joues au football, pour moi, la pression, elle n'est pas là. Mm. Pour moi, tu joues à l'Olympique de Marseille, c'est extraordinaire. Jérôme, tu te rends compte, tu joues dans des ambiances comme ça, tu joues. Attends, la pression, tu es à Marseille, il fait 35 degrés toute l'année, tu as 65 000 au stade, c'est beau. Mm. C'est pas ça la pression de la vie, Jérôme, tu vois. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai envie d'aller chercher. Et quand tu vois le président, la passion qu'il a, l'amour qu'il a, on le sait, le parcours un peu de notre président, qui est pour le coup un président jeune, mais qui connaît le football, qui est un passionné de football, ben forcément, il a envie de retrouver une équipe qui est un peu à l'image de ses valeurs voilà. Et peut-être qu'on ne va pas avoir des résultats, mais les mecs, ils vont tout donner. Eh ben, tu vas les supporter, tu vas les aider, c'est tout. Mais c'est ce qui a manqué cette année.
Mehdi, avec ton discours là, que tu viens de passer, et puis moi, je n'avais pas de doute, mais à t'entendre, ça transpire ça. J'imagine que là, dans le vestiaire, tu ne vas pas les lâcher. Là, maintenant, il faut gagner l'Europa League. C'est le message que tu vas envoyer avec Pablo Longoria, certainement, voilà, aux joueurs pour aller la chercher, l'Europa League.
Genre, écoute, pour l'instant, je te dis la vérité, moi, je pense à Toulouse. Ouais. Je te dis la vérité. Tu sais, moi, j'ai la mentalité un peu de l'autre côté. Tu sais comment ça se passe en Italie. Tout ça, moi, j'ai déjà oublié. Je te dis la vérité, on n'a pas dormi beaucoup. On est très contents hier soir. Ouais. On était là, le président était ravi. Il faut savourer.
Ces moments sont rares. Vas-y, Manu, après, moi, j'ai une question.
Une question, en fait, parce que Jean-Louis, tu as abordé justement l'avenir de l'Olympique de Marseille sur les prochains mois, notamment sur le mercato. On n'est pas à l'abri qu'à l'Olympique de Marseille en fin de saison il y a une bonne surprise aussi en termes de résultats. Moi je parle notamment de la Ligue Europa avec tout ce que ça comporte. Est-ce que on pourrait imaginer que l'intérim justement de Jean-Luc Gasset se prolonge?
Écoutez, pour l'instant
la vache des entraîneurs et la sérénité sur le banc Marseille, à un moment donné il faudra quand même que ça se calme.
Lui a clairement laissé entendre, mais dit que c'était clair dans sa tête et qu'il était là sur du court terme et que fin mai, il retournait à la maison. Enfin, en tout cas, lui le dit clairement dans ses interviews.
Mais d'y répondre, Manu.
Oui, mais imagine l'Olympique de Marseille finit champion d'Europe et se qualifie pour la Champions League.
Ce sera des beaux problèmes à affronter. Ouais. Après, aujourd'hui, voilà, Jean-Louis, moi, encore une fois, ça a été, entre guillemets, j'en ai parlé avec le président, je savais très bien, malgré l'échec, si on peut appeler ça l'échec quand même qu'il a vécu à la CAN, que c'était la bonne personne, parce qu'on sait que humainement c'est une personne extraordinaire, et je le disais avant et je le répète aujourd'hui, comme Gattuso n'était pas le pire entraîneur qu'on a voulu nous faire croire, loin de là, ça a été très compliqué de se séparer de Gattuso, mais quand tu arrives avec un groupe malheureusement qui répond plus et les résultats ne sont plus là, tu dois prendre des décisions. Mais voilà, c'est aujourd'hui, comme je dis, c'est plus les hommes qui vont sur le terrain qui peuvent être capables de changer les choses. Nous, à un moment donné, t'es là, bien sûr que t'essayes d'apporter un maximum, mais comme je dis, si ces joueurs-là, qui pour moi sont des vrais bons joueurs, décident de courir ensemble, décident d'aller presser ensemble, décident de faire des efforts ensemble, on va avoir des résultats. Après, pour ce qui concerne le mercato, le coach, quand je vois le travail qu'il fait le coach, je peux vous garantir que même s'il n'est pas à Marseille, il rentrera pas chez lui. Parce qu'il est encore en train de prouver
quand même.
Ah, pour l'instant, on l'a pas évoqué. Pour l'instant, il a un contrat, comme je vous dis, il a signé pour une période de 3 mois, 90 jours, comme il le disait très bien au départ. Et pour l'instant, on en est là et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer.
Merci Mehdi d'être venu sur
RMC. Merci. Bonne chance. D'abord, j'apprécie parce que tu m'avais donné ta parole de venir dans Rotten sans flamme. Tu es venu. Donc, merci beaucoup. Merci à l'Olympique de Marseille.
C'est un plaisir, c'est normal.
Et c'était passionnant. Et en tout cas, bon, je te souhaite que des bonnes choses, le meilleur pour la fin de saison.
Ouais, j'espère. Merci Mehdi. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Mehdi Benassia, donc le conseiller du président Pablo Longoria, en direct sur RMC. Merci Flo Germain. Merci aux.
Ciao les amis.
À la communication de l'Olympique de Marseille également. On va continuer de parler du match de l'OM parce qu'on n'a même pas commencé à en parler.
En plus,
Mehdi était là. Jérôme, le pessimiste, dans une seconde. Est-ce que la saison des Marseillais réussit? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h33 sur RMC, on est là, on est bien, on remercie encore Mehdi Benatia d'être venu dans cette première demi-heure.
C'est passionnant, si vous avez raté franchement, ouais, allez-y. Vous irez sur le podcast et qu'il sera dispo, parce que c'était super.
Le podcast, génial. Avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, comme tous les vendredis soirs, bien sûr, on est là jusqu'à 20h. Après 19h, il y aura le multiplex, mais avant, il y aura le moment de Julien Cazard à 18h45.
Exactement.
Pour se détendre, Jean-Louis.
Mais oui, pour se détendre. Bon, on a beaucoup discuté avec Mehdi Benatia, mais donc on n'a pas pu t'entendre sur le match d'hier, Jérôme.
Ah ouais,
toi, tu ne voyais pas du tout l'OM passer. Ah ouais. Est-ce que tu as changé d'avis complètement ou est-ce que tu as trouvé que c'était un match trop limité techniquement?
Écoute, moi je le souhaitais. Alors, ça n'a pas transpiré à l'antenne parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque hier, c'est vrai, que ouais, t'es pessimiste. Et, oui, j'étais pessimiste avant le coup, je l'assume.
Et négatif.
Négatif, très négatif sur l'Olympique de Marseille. Alors après, on a parlé de la chaleur, la ferveur, et moi je ne veux pas. Mettre en doute tout ce que a mis l'Olympique de Marseille, les joueurs sur le terrain, c'est tout ce que j'aime d'un match de football. Et les effets de la Coupe d'Europe, c'est exactement ce qui s'est passé, le dépassement de fonction, le dépassement de soi, le don de soi, l'entraide, aller au bout,
il n'y
a
où,
pas de souci. Non, mais le mais, c'est que je vais te dire la vérité. Et encore une fois, on va dire, mais il est malade de parler comme ça pour une demi-finale de Coupe d'Europe, le quart de finale d'hier. Mais il est d'un niveau catastrophique.
Mais ça n'a rien à voir avec la Ligue.
Non, attends, moi je te parle du niveau
du match hier.
Franchement, techniquement, je ne parle pas tactiquement parce que je trouve que Jean-Louis Gasset, pour le coup, et je l'ai souvent égratigné.
Donc techniquement, c'était limité.
Mais techniquement, c'est d'une pauvreté des deux côtés, parce que Benfica, on peut pas mettre ça de côté. Et franchement, le match, il est. Alors, tu restes parce qu'il y a la ferveur, il y a le spectacle, Mais franchement, s'il y a pas ce petit centre de Aubameyang, mais l'OM, l'OM, ils peuvent jouer encore deux heures. Mais comme Benfica, c'est la même chose. Benfica trahi par ses stars. Moi, je retiens. Il faut retenir que la qualif, l'ambiance, le fait que c'est la huitième demi-finale. Voilà,
je retiens.
Seulement
ça,
l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais rassure-moi, Manu.
Oui. Et après, on a joué qu'au 32-16.
Tu ne peux pas espérer aujourd'hui être un peu plus optimiste parce que c'est une demi-finale. Ils vont jouer l'Atalanta. Peut-être que l'Atalanta n'est pas au niveau des meilleures équipes européennes, mais ils viennent de sortir Liverpool. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille devra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et j'attends que ça d'être agréablement surpris du niveau de certains. Mais hier, ils m'ont confirmé qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont vraiment pas au niveau de jouer à l'Olympique de Marseille.
Oui, mais pourtant, ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Oui. Ils sont à une marche d'une
éventuelle. Ils sont 9e de Ligue 1.
Deux marches d'une éventuelle finale. Et pourquoi pas, justement, d'avoir un cadeau avant Noël, en fin de saison, et qui vient justement effacer tous les problèmes qu'a rencontré l'Olympique de Marseille durant toute la saison. Le problème que tu as, Jérôme, en fait, c'est que tu vois souvent le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et c'est pour ça que c'est ouais, on peut appeler ça un pisse-froid, ouais. Donc quelque part, c'est
de se dire,
bah oui, quelque part de se dire, en fait, tu vois toujours le négatif alors qu'on pourrait voir du positif. Regarde la saison pourrie qu'a eu l'Olympique de Marseille, à la fois dans les coulisses, avec les supporters, avec les joueurs, le nombre d'entraîneurs qui ont été changés. Mais c'est presque miraculeux de se retrouver en demi-finale de Coupe d'Europe.
On est d'accord.
Mais toi, tu préfères pointer du doigt justement le niveau de certains joueurs à l'Olympique de Marseille, alors que moi, je me dis, on a été joueur, je me dis, si j'avais vécu une saison si pourrie sur le terrain et en dehors du terrain, et qu'on me dit à la fin de saison, tu vas jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, et
mais c'est
pour
génial.
Mais j'aurais signé avec les pieds, quoi, tu vois.
Mais moi, Manu, en fait, c'est là.
Le niveau technique. Mais c'est comme Lille hier, quand je vois ce qu'ils ont fait contre Aston Villa, qui est une super équipe de première ligue cette saison. Ils étaient à deux doigts de se qualifier. Ouais. Quand je vois ce qu'a fait Paris Saint-Germain au Barça, j'étais présent à Montjuïc. Et quelque part, je me dis, mais pour une fois qu'ils n'ont pas bénéficié de circonstances arbitraires. Mais tout ça pour te dire, Jérôme, c'est que moi, je ne suis pas du tout. Mais moi, des fois, je suis critique sur la Ligue 1 pour certaines choses, mais je ne peux pas critiquer justement ce qu'ont fait ces clubs-là durant la saison quand on connaît les problèmes qu'ils ont.
Et après, avec Jean-Luc, ça agit au 32-16. Et je finis là-dessus.
Passons depuis longtemps.
Tu ne me comprends pas.
La question, c'est quoi, Jean-Louis?
Oui, là, il n'y a plus de question.
Non, je ne critique pas, si tu veux, l'état d'esprit, tout ce qui s'est passé à Marseille. Je ne veux pas minimiser. On est en
en France, c'est la huitième demi-finale seulement de l'histoire de l'Olympique de Marseille.
Donc il faut s'en réjouir.
Mais je m'en réjouis. Je dis juste.
Mais alors pourquoi pointer le négatif? Je comprends pas.
Mais parce que tu es obligé. On fait une analyse de match. Alors dans ces cas-là, vu que les
ils ont joué avec des blessés, avec des gamins et tout.
Quand les équipes gagnent, on dit c'est fantastique. Quand elles perdent, c'est la Bérésina. Non.
On a pas vu ça. Fabuleux Marseille.
Le Marseille.
Mais Jérôme. Mais fabuleux le PSG.
Mais le match en lui-même était catastrophique quand même. T'es d'accord? Mais des deux côtés.
Mais on s'en fout.
Allez, Jérôme et Manu, s'il vous plaît, on respecte ceux qui nous appellent au 32-16. Jean-Luc est là sur RMC dans Rotten sans flamme.
Salut Jean-Luc.
Salut Jean-Luc.
Ouais. Ah, bonsoir messieurs. Oh là là, ça fait vraiment longtemps que j'attendais ce moment. Bonsoir.
C'est pas Jean-Luc ça.
C'est Didier Deschamps.
Non, c'est pire.
Oh là. Ah, c'est Julien Cazard.
Ah non, c'est encore pire.
Non,
c'est
Guy. Non, mais... Monsieur Rotten, attendez les enfants.
Par contre, on vous entend très mal là, Jean-Luc.
Ouais,
Il y a un sanglier qui est sur la ligne.
Ouais, rapprochez-vous de votre micro.
Ouais.
Oui.
Poussez le sanglier.
C'est Nicolas Cantu, Manu.
Je disais pour Monsieur Rotten, vous qui parlez toujours mal de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que ça vous a fait que le Marseille se qualifie là, Monsieur Rotten? Les enfants, arrêtez. Je suis là avec Monsieur Rotten.
Alors, qui, Manu, à ton avis?
Mais je sais pas.
Vous avez vraiment alors été ridicule, Monsieur Rotten, et vraiment.
Mais alors merci écoutez, Jean-Luc. Évidemment, vous êtes là pour régler vos comptes.
Jean-Luc, déjà vous êtes.
Oui.
Franchement, vous me faites penser à quelqu'un qui connaît pas grand-chose au football, mais
par contre, c'est un petit peu.
On a.
Jean-Luc, si c'est pas grossier, on va arrêter tout de suite.
Un auditeur grossier qui ressemble à Pascal Olmeta, ça je veux pas.
Mais qui on est, Rotten? Mais qu'est-ce qu'on a fait, Rotten? Ah, tu es pas content qu'on a gagné, Rotten?
Bien sûr, je suis ravi, j'ai fait feu d'artifice.
Allez, l'OM, Rotten!
Mon Dieu.
Manu, tu m'avais pas reconnu, Manu?
J'arrête pas de poser la question, c'est qui?
Allez,
merci Pascal.
Merci Pascal.
Je vous embrasse, les gars. Bonne émission.
On est très contents pour toi.
En vous écoutant, j'ai failli avoir un accident. Oh là là, dégagez! Allez,
merci Pascal. Dans une seconde, le casard enchaîné, on va redevenir sérieux.
À jamais, Pascal.
Par rapport à ce moment. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h46 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue nos débats après 19h. Oui, après 19h, c'est le multiplex Ligue 1, la 30e journée de championnat de Ligue 1. Oui. C'est 30e, oui. On est quasiment à la fin, mais il y a des matchs en retard, donc on ne sait plus trop. On ne sait plus. Jean-Louis Tour, Manu Petit, le moment de Julien Cazard, c'est maintenant.
Et on va débattre dans le multiplex. La Ligue 1 est-elle faussée par les reports de matchs? Je vous donnerai toutes les infos après 19h, puisqu'on connaît la réorganisation du calendrier.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et l'OM n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
Première erreur, c'est de l'Europa League, pas la Ligue des Champions.
Putain, mais Jean-Louis, quoi? Jean-Louis, le métaverse. Mais est-ce que t'as vu les rues de Marseille hier soir? T'as entendu Flo Germain tout à l'heure? T'as entendu hier soir? T'as entendu les auditeurs? Tu crois vraiment qu'on s'enflamme autant après juste un quart de finale d'Europa League? T'as écouté même Mehdi Bedassia, vous l'avez vu tout à l'heure, il t'a dit il fait 35 degrés toute l'année. Il fait 19 en ce moment, on est en avril, parce que dans le métaverse, il fait 35. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est comme à Dortmund, quand il fait 3 degrés, on fait une pause fraîcheur. C'est pareil, c'est le métaverse. Sauf que vous, dans votre montre étriquée de petit journaliste parisien, là, l'OM, il a juste passé Benfica au tir au but. Ah, mais c'est un match vraiment techniquement très faible, hein. Ah, gna, 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 gna. Dans votre esprit étriqué de parisien, là, c'est la consolante. Ah, ouais, ça fait pas oublier la saison moisie. Alors que dans le métaverse, on est à deux doigts d'être champion d'Europe, gros. On est dans une saison fantastique, qui a cassé Sanchelotti, gros. Ah, mieux. Et si ça se goupille bien, ça sent le triplé historique en fin de saison. Car mathématiquement, Jean-Louis, on peut encore être champion.
Mais alors, et oui. Métaverse ou pas, mathématiquement, c'est mort, ça.
Dans le métaverse, on peut être champion, Jean-Louis! Mais tu comprends pas! Et surtout, ce qui est important, c'est qu'hier soir, l'OM a encore prouvé qu'il était la dernière équipe française encore qualifiée en Coupe d'Europe. La seule équipe française.
Avec Paris? Non, il y a Paris quand même.
Non, Paris, c'est pas une équipe française. Non, pas dans le métaverse.
Oui, dans le métaverse, c'est pas une équipe française. T'exagères.
T'as raison Jean-Louis, je vais un peu trop long. Écoutons plutôt la réaction d'un supporter marseillais lucide après le match. Et puis surtout, tout à sa joie, on sort du match, il n'y a pas d'aigreur. C'est pas un rageux, il est juste heureux et ça fait du bien.
Salut Jean-Luc, tu sors du stade ?
Ouais, je sors du stade, j'ai plus de voix. Bon. On est l'OM, exemple, le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe. Hein.
Pardon ?
Donc, hein ? On est le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe.
Ah, ça commence à chauffer.
Il y a le PSG quand même, il y a le PSG.
Non, c'est un club qatari, c'est pas un club français.
Ah d'accord.
Certains pensent que le métavers est un monde virtuel. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion. Mais... voilà, ça faut surtout pas. Il est génial ce monde virtuel. Il est génial, mais moi je veux vivre dedans. Ils ont 30 ans d'avance, les mecs, on nous fait chier que le métaverse, ça fait 30 ans qu'ils l'ont créé. Oh, c'est beau. Mais je suis sûr que dans le métaverse, Jean-Louis, tu m'entends ?
Oui.
Il y a des émissions avec des débats du genre la saison de l'OM est-elle déjà réussie ? Alors qu'ils sont 9e.
Ça, c'est un de nos débats.
Ah, on est dans le métaverse, non ? Oh merde, on est dans le métaverse. Mais c'est génial. Mais attends, RMC a pas été racheté par les Marseillais, rassure-moi. Je serai au courant. Allez, sommaire. C'est génial que c'est le métaverse. Dans cette édition nous parlerons du but qui a tout changé, d'un nouvel attaquant qu'on connaissait pas et qui a marqué un but important hier. C'est un attaquant sorti de nulle part qui a marqué quand même pour Marseille.
Oui, Moumbagna, tu veux parler?
Moumbagna.
Tu dis qui? T'as parlé de qui toi?
Moumbagna.
Moumbagna. T'es sûr? Mais c'est pas lui tout le... Non, c'est pas lui. Non, tu confonds. Moi, je parle de l'attaquant qui a marqué. Moi, je sais pas, je regardais M6 avec Jean-Marc Ferry, c'est quand même le mec qui connaît le mieux les joueurs de Marseille. Eh ben, moi, c'est pas lui dont il m'a parlé. Enfin, j'ai...
Un formidable buteur, mais aussi il donne des très très bons ballons, avec beaucoup de passes décisives. Et son centre pied gauche, il a été très très bien dosé, très bien donné, du mauvais pied. Pour trouver la tête de Moumbagna qui a...
Moumbagna.
Moumbagna, il a marqué Moumbagna. Et oui, je crois que c'est officiel, il est atteint du syndrome Roland Courbis qu'on connaît tous. C'est la phobie des noms des footballeurs. Il y a Moumbagna, Tchoumali, Kondjogba, Bichabou, Kavavinga. Et à ton avis, pourquoi Roland il disait Lisa, Zizou et Dugas? Parce qu'à plus de deux syllabes, il est perdu. Voilà, donc Moumbagna, on l'embrasse. Dans cette édition, nous reviendrons surtout sur l'élimination de Lille. C'est cruel, parce que...
Pardon, on va vraiment parler de Lille, là?
Ben oui, non, mais
donc toi, t'as l'OM qui est en route pour marquer l'histoire mondiale de la Coupe d'Europe, et tu vas nous gonfler avec un match de deux équipes en carton, dont une qui a du mal à intéresser les gens à plus d'un kilomètre de Villeneuve-d'Ascq. T'as remarqué le sommaire de l'émission? Est-ce que t'as vu une seule fois le mot Lille écrit? T'as remarqué qu'hier, on avait fait le match en fil rouge en mode foot féminin? C'est quand même un indice. Alors t'es gentil, tu laisses Lille à Aston Villa à la bande à Walid qui va pouvoir spinoler sur les circuits préférentiels entre Angel Gomez et Lenny Yoron pour bloquer Matic Cash, histoire d'exciter 3 geeks boutonneux fans de PL. Et toi, pendant ce temps-là, pense aux audiences.
Oui,
je
rectifie, on n'a jamais fait, même en fil rouge, le foot féminin. Merci Antoine, on va laisser tomber Lille, on va revenir au match de l'OM. Il faut dire que c'est vraiment la sensation du soir, forcément c'était la folie. Et tu sais, vous savez que nous, quand il y a des matchs comme ça, il y a une libre antenne derrière. Quand il y a un grand match de Coupe d'Europe comme avec le PSG, là c'est l'OM, libre antenne. On prend la libre antenne avec Walid, Oussem et Thibaut. Et là tout de suite, on est dans la ferveur, on est dans le match, on est encore dans le match. C'est l'émotion. On écoute.
RMC, minuit 30, 1h30. L'after libre antenne, Oussem et Thibaut.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans la libre antenne sur RMC. Comment ça va le H?
Écoute, ça va à merveille. Un peu fatigué, mais ça va à merveille.
Ah, ça y est.
En fait, il y a des clubs français qui nous donnent de bonnes nouvelles, donc écoute.
Ça fait plaisir. Walid Acharchour.
Et puis c'est resté toi. Ah, on n'a jamais fait le top bonbon.
Ah non, top bonbon, vrai. Ouais. On peut le faire tout de suite.
C'est mort. Le réglisse, c'est Stoke City, c'est Mark Hughes,
c'est tu vois.
Ah ouais, c'est les touches de Rory Delap, c'est sincèrement.
Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. C'est solide. Il y a les pics avec les morceaux dessus.
Ah, les piquants.
Ouais. C'est solide, Strom.
Ça a piqué.
L'air requin, bien sûr. L'air requin.
Alors il y a Hicham qui nous dit les bonbons Haribo cœur de pêche.
C'est extraordinaire.
Cœur
de pêche.
C'est
pas mal. C'est en fait les cœurs de pêche.
Voilà, c'est classe. On sent la passion du foot.
Mais t'as fait un montage. Ils ont pas commencé par ça quand même.
Mais t'as pas vu, il enchaîne. Il a à peine commencé, il dit. Et si on n'a jamais fait, le classement des bonbons. Bah non, on l'avait pas fait, surtout pas après un OM de Benfica. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Je voudrais finir avec notre fameux feuilleton des séries.
Oui.
Qui prennent des joueurs de l'OM ou du PSG. Alors on avait eu que le bureau des légendes, ils avaient placé un espion qui s'appelait Ben Arfa. Oui. Vous vous souvenez? Eh bien le bureau des légendes, on est à la saison 4. Visiblement, ça reste obsessionnel chez les auteurs. Écoutez.
Protéger l'agent le plus déloyal que l'on ait eu depuis longtemps, voilà l'obsession aujourd'hui de la direction du bureau des légendes. Je vois que vous aimez le foot, hein, les jeunes. Knysna, ça vous dit rien?
Le 20 juin 2010. Anelka est exclu, les autres joueurs se mettent en grève.
Alors attendez, non mais c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut réécouter l'endroit où il y a eu la mutinerie, s'il vous plaît, parce que j'ai mal entendu, parce que c'est passé où? On écoute.
Je vois que vous aimez le foot, hein, les jeunes. Knysna, ça vous dit rien?
Knysna. Knysna, ah non, moi ça me dit rien non plus. Hein. Knysna, moi ça me parle. Mais alors
mais
moi, Knysna. Mais Knysna, c'est-à-dire qu'en fait, le pauvre Amalric, il a lu son scénario, il a vu le mot Knysna, il a dit bon, et comme le mec qui a écrit, il était pas sur le tournage, hein, t'imagines bien, le réalisateur, il connaît pas plus au foot que lui, il dit ouais, Knysna, c'est bon, la garde.
Pas comme si on avait entendu le nom, quoi. Bon.
Attends, juste pour finir.
Non, par contre, ça marche pas sur Anelka, parce que là, il parle du vrai Nico, c'était pas un personnage.
Ah ouais, c'est vrai. Du coup, il a pas dit un nom du PSG. Ça compte pas comme un nom du PSG. Mais Daisy, t'en fais quoi de Daisy?
Daisy.
Alors, on va regarder. On va écouter les secondes qui suivent. On va écouter Daisy.
Il a fallu des années pour rebâtir l'équipe de France. Et là, il suffit d'un simple questionnaire de sécurité pour créer la panique. Sylvain Ehlenstein ne sait rien. Raymond Sisteron, élu d'une question sur deux. Alors, Daisy Bappé n'a même pas daigné répondre.
Voilà, ça a tenu 4 secondes. Parce qu'à un moment donné, t'as de l'ordre, les gars. Moi, j'attends Jean-Claude Neymar et Stéphane Di Maria. C'est tout ce que j'attends. Allez, il est temps que ça se termine, tout ça. À tout à l'heure.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien de retour à 19h45 pour le quiz. Le championnat est-il faussé par ces reports de matchs à cause de la présence de nos clubs français loin en Coupe d'Europe? C'est le débat dans le multiplex. On lancera la 30e journée de Ligue 1 dans une seconde.
RMC,
Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, on est là, on est bien à la deuxième heure de Roten sans flamme de ce vendredi soir. Et qui dit deuxième heure de Roten sans flamme du vendredi soir, c'est le multiplex Ligue 1. Oui, dans un instant, on va retrouver tous nos correspondants avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour. Ça va être génial, on va passer un grand moment, encore une heure avec vous, en votre compagnie. Et puis après, le week-end, on vous laisse tranquille et on se retrouvera à partir de lundi pour encore une fois une émission exceptionnelle, plein de surprises la semaine prochaine, Jean-Louis.
Oui, alors on vous laisse tranquille, oui et non, parce que le week-end, c'est le moment où il faut tout podcaster.
Ah bah oui.
Vous allez pouvoir podcaster Mehdi Benatia en première heure.
Ça, c'était bien.
Vous allez pouvoir podcaster le débrief de Barça PSG.
C'était le meilleur débrief du PAF.
Vous allez pouvoir podcaster l'avant Marseille Benfica, les analyses de Jérôme. Ça aussi, ça vaut le coup d'être écouté, même après la qualif de l'OM.
Ouais. Surtout qu'il y a plein de choses qui me donnent raison.
Donc allez-y, faites ça tout le week-end. Mais dans cette deuxième heure, il y aura le quiz aussi. Avec Julien Casar, 19h45. Une semaine dans une résidence Lagrange Vacances à gagner. Vous envoyez top au 732-16 pour vous inscrire. Mais tout de suite, on lance la 30e journée de Ligue 1.
RMC, Roten sans flamme.
Et but!
Et troisième de but!
Emmanuel Petit!
Emmanuel
Petit, extraordinaire!
Il va le mettre!
Emmanuel Petit! Oui. Ouais.
C'est gagné pour l'équipe de France!
Bravo Emmanuel Petit!
Ah, c'est dingue!
Quelle émotion!
Ah, et long!
Qu'est-ce que ça a donné comme émotion?
6 buts dans ma carrière, ça fait de l'effet! Hein.
Ça, c'est pas des buts en Ligue 2, là! Hein. C'est pas des coups francs!
Il y en a qui marquent 20 buts dans la saison qui comptent pas, et voilà!
C'est vrai. Mais il y en aura d'autres, ouais. Des commentaires, parce que là, c'est toujours le même. Et qui commence à vieillir, celui-là. Ah,
excuse-moi, c'est la finale de Coupe du Monde. Hein.
Oui, oui, ben d'accord.
C'est pas un match contre les pays. C'était des Lilas le dimanche matin, tu vois ce que je veux dire.
Et tu respectes mon but en équipe de France contre les îles Féroé, s'il te plaît.
Bah, c'est vrai que c'est un but en équipe de France.
Ah oui, non, pas sexy, mais ça me rappelle.
Non, mais oui.
Ça te rappelle quoi?
Non, mais tu rigoles,
en fait. Les îles Féroé, ça me rappelle en fait les dessins animés avec les dragons, là.
C'est-à-dire?
Les moutons? Non, c'était pas des moutons sur le terrain. C'est, bon, c'est vrai qu'il y en avait un ou deux qui ressemblaient à un mouton, mais.
La 30e journée de Ligue 1, on y va tout de suite avec nos correspondants comme tous les vendredis. Jean Baumel dans le Nord, salut Djibo.
Salut Jean-Louis, Jérôme.
Salut Djibo,
bonsoir à tous.
Il a fait des cauchemars de Dibou Martinez toute la nuit. On va parler de Lyon qui se déplace au parc dimanche avec Edouard G. Salut Edouard.
Bah oui, il faut bien penser aux audiences.
Oh là là. Oui, on pense aux audiences, exactement.
Salut Edouard.
Salut Manu.
Salut. On va parler des cadres à Lyon, puisque c'est un discours de la Lacazette qui a remobilisé tout le monde dans cette saison. Non, c'est ce que tu dis Jérôme depuis le début de l'année, ouais. Que Lyon s'en sent grâce à ses cadres. Et puis Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur est là. Salut Maxime.
Exactement, salut à tous.
Maxime, bonsoir, bonsoir.
Un gros Brest-Monaco pour toi, notamment. Et Nice-Lorient.
Nice-Lorient, allons, Nice-Lorient.
Nice-Lorient, mais Brest-Monaco quand même.
Bien sûr.
Pour la Ligue des Champions. On parlera de l'absence de Golovin avec toi, notamment. Ouais. Mais on va commencer sur l'info toute fraîche, la réorganisation du calendrier. Alors, ça y est, la Ligue a communiqué. Donc, les deux matchs prévus entre la demi-allée et demi-retour de Coupe d'Europe sont donc décalés, comme oui. Là pour les quarts de finale, pour laisser plus de temps à Paris et Marseille donc de se préparer. Donc Reims-Marseille et Nice-PSG, qui comptent pour la 32e journée de Ligue 1, ont été déplacés au mercredi 15 mai à 21h. Ça c'est simple, donc c'est entre les deux dernières journées. L'avant-dernière journée de Ligue 1 va également être impacté, puisqu'il n'y aura pas tous les matchs en même temps finalement. Ils ont décidé d'avancer deux rencontres pour pas que ça fasse un enchaînement trop important pour les adversaires de Marseille et de Paris. Donc Brest-Reims et Nice-Le Havre, qui comptent pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, seront pas avec tous les autres matchs, mais le vendredi, donc deux jours avant. Voilà, ça c'est les aménagements du calendrier. Alors, est-ce que la Ligue 1 est faussée par ces reports? Écoutez d'abord Éric Roy, l'entraîneur de Brest, qui donc comprend pas ces décisions.
Juste, pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, qu'on fasse ça, quoi. On est toujours, nous, on est toujours un petit peu, je sais pas, différent des autres, peut-être, je sais pas. Mais bon, je vois que les Anglais, ils jouent, les Espagnols, ils jouent, les Allemands, ils jouent. Ils jouent les Coupes d'Europe. À partir du moment où tu es qualifié pour une Coupe d'Europe, tu prépares ta saison aussi par rapport à un calendrier. Surtout qu'en France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs. Et donc, peut-être, du coup, être plus performant. Nous enlever une Coupe nationale aussi dans cet objectif-là. Donc, on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc, bon.
Voilà, match reporté. Dans vos clubs, ils en ont parlé aujourd'hui? Edouard, Maxime?
Pierre Sage a eu la même réponse que la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est bien pour les clubs français, mais que si nous, je parle de en tant qu'entraîneur de l'OL, on était dans la situation par exemple d'un Lorient la semaine dernière qui avait son match déplacé et que ça l'oblige à jouer trois matchs dans la semaine, ça pourrait un petit peu poser problème. Mmh. Donc une réponse un petit peu de normand pour Pierre Sage. Oui.
À Lille, en tout cas, Fonseca était très heureux de bénéficier le week-end dernier du report du match contre Monaco. Il remercie même la Ligue officiellement devant tout le monde en conférence de presse. Et je pense que si Lille était passé hier soir pour affronter Olympiakos, ils auraient été très contents, de pouvoir souffler. On a vu d'ailleurs,
Nice,
sur le match d'hier d'ailleurs.
À Nice, tu voulais dire, Maxime?
Oui, à Nice, c'est vrai que on grinçait un peu les dents quand même d'avoir cet enchaînement une nouvelle fois de trois matchs dans la semaine avec la réception du Havre, aller à Paris, enfin recevoir Paris, puis aller à Lille sur la dernière semaine du championnat. Finalement, le gym a demandé à ce que le match face au Havre soit avancé de 48 heures, ce qui permet quand même d'alléger un petit peu cet enchaînement de matchs et pas non plus trop fausser cette saison. Puis à Monaco, Hütter, lui, comprenait totalement, en espérant d'ailleurs être parmi les Européens la saison prochaine et qui bénéficierait peut-être aussi de ces aménagements.
Jérôme, c'est n'importe quoi. Ces modifications ou tu les comprends?
Non, mais moi je suis sur la même.
Le championnat est faussé.
Non, je suis sur la même ligne. J'irai pas jusqu'à dire c'est faussé. Je dirais juste que c'est surprenant parce que en effet on est les seuls pays là encore concernés par la Coupe d'Europe à faire ça. Donc il faut se demander pourquoi on le fait. On a viré la Coupe de la Ligue. Je suis assez d'accord avec Éric Roy. On a viré deux clubs de Ligue 1 pour passer à 18 clubs à l'arrivée. Il y a toujours un problème de calendrier. Déjà il faut anticiper. Si vous voulez respecter les Coupes d'Europe, Faites le calendrier en fonction des quarts de finale, des demi-finales, voire des finales. Mais aujourd'hui,
il y a eu un paquet de semaines sans match.
On a quand même l'impression qu'ils n'avaient rien anticipé, comme d'habitude, qu'ils se sont dit demi-finale de Coupe d'Europe, de toute façon, on n'en fait quasiment jamais. Donc, au pire, il y aura une équipe et on s'adaptera. Mais alors là, ils sont surpris parce que ça a failli être trois. On en parlera tout à l'heure avec Djibo. Il y en a deux à l'arrivée. Déjà, sur les quarts de finale, c'était problématique. Donc là, demi-finale, non, franchement, c'est... Moi, j'ai...
Mais en plus, tu dis que ce n'est pas forcément faussé. Mais si c'est faussé, Jérôme,
mais non,
d'habitude, on met les deux dernières journées de championnat ensemble, avec tous les matchs en même temps. Parce qu'on considère
pour
que...
Pour éviter les arrangements.
Voilà, que ça... et que tout le monde doit avoir le même niveau d'information et pas savoir que ton adversaire direct a déjà fait match nul, etc. Là, ce ne sera pas le cas cette année.
Moi, je vais même pas là-dessus. Je trouve
ça. Tu devrais, parce que c'est choquant aussi.
Non, mais d'accord. Mais moi, déjà, ce qui est choquant, c'est des clubs qui sont donc pas concernés par la Coupe d'Europe, mais qui jouent des équipes qui sont eux qualifiées pour les demi-finales. Donc, vont voir leur match décalé. Ils vont pas jouer un week-end. Les adversaires, ils jouent. C'est problématique à préparer. Ça, c'est sûr. Dans l'aménagement, tu sais, quand tu passes 15 jours sans jouer ou 10 jours sans jouer, c'est aussi problématique dans cette période-là quand tu es habitué à jouer un match par semaine.
Bah oui.
Donc rien que pour tout ça, tu respectes pas le plus petit qui joue le maintien. Et tu avantages ceux qui jouent la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est la rançon de la gloire. Et tant mieux pour les équipes qui sont demi-finalistes et j'espère finalistes bientôt. Mais ils ont un effectif. Ils sont là pour quand tu vises la gagne en Coupe d'Europe, c'est en général que tu as un effectif qui est important. Et à l'arrivée, quand tu regardes, et c'est pour ça que j'en veux un petit peu à la Ligue aujourd'hui, c'est que le PSG, ils vont être champions de France.
Mais oui.
Donc s'il y avait eu des matchs pas décalés et qu'il faut faire tourner, il le fait depuis maintenant 4-5 journées.
Il y a même eu des présidents qui sont montés en
place. Voilà, donc il le fait, donc il aura continué à le faire. Luis Enrique, ce n'est pas un problème. L'Olympique de Marseille, on en a parlé tout à l'heure avec Mehdi Benassia, et c'est Manu qui faisait la référence à ça. Ils sont à 10 points de la Ligue des Champions à 6 journées de la fin, mais c'est mort. Donc il ne faut pas non plus soyez la face. L'OM, s'ils sont fatigués, les organismes, bien sûr, avec ce qu'ils ont donné hier, ils font jouer une équipe de jeunes, c'est pas grave. Au pire, tu vas perdre à Toulouse. Est-ce que c'est problématique et
Manu,
tu vas perdre le match d'après?
Ça te choque ce que fait la Ligue?
Moi, ça fait longtemps que ça me choque plus de ce qui provient de la Ligue. Le dernier débat qu'on a fait, c'était sur le naming, justement, avec la malbouffe.
Ah oui, la Ligue à McDonald's.
Donc moi, ça me dérange pas.
Jérôme m'avait défendu.
Ça me dérange pas, parce qu'en fait, ils sont cohérents dans ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire, ça anticipe pas, on est dans l'urgence en permanence, on prend des décisions au jour le jour, il n'y a pas de planification, et ça montre, en fait, quelque part, un manque de confiance des clubs français d'être performants en Coupe d'Europe. En ayant supprimé autant de compétitions pour pouvoir alléger et donner des phases de récupération au club et aux joueurs, on s'aperçoit finalement non, il y a embouteillage et que quelque part, pour aider les clubs français à gagner des points UEFA et pour permettre aux autres clubs français d'en profiter, on aménage des choses qui peuvent remettre en cause l'équité en fin de saison. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Moi, en tout cas, je comprends ce que dit Eric Roy. Je suis à fond derrière ce qu'il a dit, mais je pense qu'Eric aussi, il oublie une chose. Et tu oublies toi aussi, Jérôme, une chose.
Dis-moi.
C'est que la fin de championnat, ce sont que des intérêts personnels et privés, en fait, qui s'imposent au détriment de l'intérêt collectif. La Coupe d'Europe, c'est un intérêt à la fois privé, mais également collectif, qui peut bénéficier à d'autres clubs. Donc, quelque part, moi, c'est le bien de la communauté qui, pour moi, devrait l'emporter sur les intérêts privés.
Mais on les a joués, Manu, ces matchs-là. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que, alors après, le foot, il a changé tout ce que tu vois. Qu'est-ce qu'on n'entend pas, de toute façon? Il y a plus de matchs. Non, il y avait plus de matchs avant. Oui. À notre époque, il y avait plus de matchs parce qu'il y avait deux coupes, parce qu'il y avait 20 clubs et il n'y en avait pas que 18 et des matchs de Coupe d'Europe, c'était la même chose, les phases de poule et après élimination.
Mais tu penses que ça peut fausser l'équité en fin de saison?
Mais pourquoi
si le PSG fait tourner si je qualifie en Champions League, Manu, en finale, ils vont faire quoi?
Pourquoi on ne le faisait pas avant? Manu, je te pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Ah mais là-dessus.
Alors donc pourquoi les autres clubs ne le font pas?
Ah mais on est complètement d'accord. C'est pour ça que je dis que je comprends Eric.
Et ça les empêche d'exister en Coupe d'Europe? Non. La preuve, c'est que nous, c'est même surprenant d'avoir deux clubs en demi-finale, ce qui ne devrait pas être une surprise, mais c'est surprenant. Donc, à l'arrivée, contentez-vous.
Il n'y a pas d'anticipation.
Vous savez qu'il n'y aurait pas eu d'affaire au MVR si on avait appliqué le même truc? Hop, le match de Valenciennes avant la finale des clubs champions, reporté, et il n'y aurait pas eu de problème à l'époque.
C'est vrai.
Et oui. Voilà. Manu.
Non, je ne dis rien, moi.
Allez, dans une seconde, on reprend le multiplex.
Bon, ça ne serait pas tombé sur Valenciennes, quoi.
Sur les autres. Est-on mauvais perdant avec Martinez ? Olivier Létang est-il mauvais perdant puisqu'il s'est plaint ? Alors ils sont plusieurs à s'être plaint du comportement de Martinez hier lors de l'élimination de Lille face à Aston Villa.
C'est génial.
Le débat dans une seconde, à tout de suite.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h14 sur RMC. On est là, on est bien. On continue notre multiplex Ligue 1, pardon, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour, avec tous nos correspondants qui nous lancent cette prochaine journée de championnat de Ligue 1 qui commence ce soir avec ce Nice-Lorient, Jean-Louis.
On est avec Edouard G, Maxime Tilliette et Jean Baumel. On va parler de l'absence de Golovin tout à l'heure, des cadres lyonnais, mais d'abord Martinez. Dibou Martinez a recommencé après nous avoir dégoûté en finale de la Coupe du Monde. Il a donc dégoûté Lille lors de la séance de tir au but. Et Olivier Létang, Djibo, le président, a dénoncé son attitude. Elle n'est pas celle d'un sportif de haut niveau. Dans la défaite comme dans la victoire, il faut rester calme et élégant. Bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il a sorti Lille, hein, Martinez.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi en substance la main non sifflée pour le LOSC dans la surface de réparation qui, pour eux, était un pénalty. Hein. Ensuite, il y a aussi ce but de fin de match où ils étaient pas contents que l'arbitre ne siffle pas parce qu'ils estiment qu'il y a faute, une poussée sur Benteleb, justement, qui va sur Lucas Chevalier. Donc, il y a un peu tout ça. Et le gain de temps aussi qu'il prenait Emiliano Martinez. Bon, on sentait aussi que Aston Villa n'était pas très bien dans ce match. Et lui, quelque part, il a cassé le rythme en permanence parce qu'ils ont peut-être fait un gros match contre Arsenal en jouant eux dimanche dernier. Et ils avaient peut-être moins de fraîcheur que Lille. Mais on sentait que Emiliano Martinez voulait gagner du temps en permanence. D'ailleurs, il a pris un carton jaune pour abus sur ses dégagements de gain de temps. Mais voilà, après, il est un peu rentré dans la tête des joueurs lillois. Et puis, la chose qu'il voulait, lui, c'était arriver à la séance de tir au but. Et puis, il a fait exactement. Il a tout simplement fait des petites danses, il a discuté avec les tireurs lillois, il a tenté plein de choses pour les déstabiliser.
Il n'a rien fait de répréhensible.
Franchement, après c'est comme tout, s'il était à Lille, on serait peut-être tous contents qu'Emiliano Martinez qualifie Lille en demi-finale. Je pense qu'on ne peut pas comparer avec la finale de la Coupe du Monde parce que c'est la célébration après, lors de la Coupe du Monde, qui était embêtante. Là, sur le match, c'est sûr que c'était pas un grand match d'Aston Villa. Lui, il n'a pas non plus. On a été déçus d'Aston Villa. Et lui, il en est pour beaucoup. Mm. Mais il a fait son boulot. Il n'y a rien de répréhensible sur sa prestation.
Oui, sauf que moi, il y a quelque chose. Alors, moi, je veux bien qu'il soit dans l'échange avec le public. À mettre le doigt sur sa bouche, à échanger avec certains joueurs. Mais sur la séance de pénalty, de tir au but, je suis désolé, mais je trouve ça irrespectueux au possible de jouer à tout, tu sais, de faire la petite danse, de mettre du temps à te mettre dans les buts par rapport au tireur, à lui tirer la langue, à lui ceci, cela. Tu vois, on a vécu ça dernièrement sur les séances de tir au but de Rouen. Rappelle-toi, le gardien de Rouen, remplaçant, qui a fait la même chose. Mmh. Je trouve que c'est un manque de respect total. Pourquoi tous les gardiens ne font pas ça, alors ? Pourquoi les exceptions, elles sont là et elles
pourquoi
font
vouloir à ceux qui le font Est-ce qu'on n'assiste pas aussi le poste en voulant que les mecs ne bougent pas, etc. Déjà que Jérôme, techniquement, on leur met des boulets aux pieds. Hein. Ils ne peuvent plus s'avancer, ils sont obligés d'avoir les pieds collés. C'est des désavantages pour eux. Ils essaient peut-être cela de compenser.
Okay. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Et c'est plus compliqué. Du moins, ce n'est même pas plus compliqué parce qu'on a tiré des pénalties avec Manu, des pénalties importants. La pression, elle est plus sur le tireur que sur le gardien. Parce que le gardien, s'il le prend, le pénalty, on ne va pas lui en vouloir, tu vois.
Oui, bah, c'est plus dur quand même maintenant avec la règle du pied sur la ligne.
Je ne te dis pas que c'est plus facile ou plus dur ou ceci, cela. Je dis juste qu'il y a une façon de respecter ton adversaire. Voilà, il y a le côté chambrage, tout ça, et je suis bien placé pour en parler parce que je jouais beaucoup de ça et je continue.
Donc pourquoi là, ça te pose un problème
J'aurais bien aimé de voir tirer un pénalty sur Martinez.
Oui, parce que lui, il va au-delà, Jean-Louis. C'est même plus du chambrage, c'est Non, c'est pas du chambrage. Quand tu viens emmerder
le tireur, c'est la même chose.
À mettre du temps à être dans les buts, à prendre le ballon, à le mettre 3 mètres à côté pour qu'il fasse l'effort de y aller. Limite de faire un trou comme Paulo Lopez quand il tire les séances de tir au but. Alors, Iyad l'a pas fait et à l'arrivée. tant mieux pour lui, il a été grand. Mais dernièrement, rappelle-toi la séance de tir au but à Rennes, mmh, où Marseille se fait sortir. Il a été infect avec les tireurs. Il venait coller, il mettait le ballon sur le point de pénalty. Il était collé à eux, limite, en train de faire un trou. Okay. Non, mais ça, pour moi, c'est
déplacé.
C'est déplacé, c'est un manque de respect. Après, le reste, son attitude, tout ce que tu veux, il est comme ça. Il se fout de la gueule des gens. Il déteste les Français, mais qu'il assume jusqu'au bout. Lui, le problème, c'est qu'en conf de presse, je l'ai entendu après, il assume pas. Il dit, j'ai rien contre les Français. Si, mon coco, dis-nous que tu as une dent contre nous pour X raisons, la Coupe du Monde, la finale, ceci, le cela. Ok, on accepte. Ouais. T'es l'ennemi public numéro un le jour où tu reviendras encore en France. Il n'y a pas de problème, mais assume-le.
Manu, toi, t'es d'accord avec Jérôme, il manque d'élégance.
Bah, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, rappelle-toi sa célébration au mondial. Il y avait, je crois, l'émir du Qatar derrière.
On parle pas de la célébration, on parle sur la séance de tir au but.
Non, mais rappelle-toi après, lorsqu'il est revenu à Buenos Aires.
Non, mais Manu, sur les célébrations, on sera tous d'accord.
Non, mais de Mbappé, tout ça, il est à fond dans la provoque.
Ça, là-dessus, on sera tous d'accord. Mais sur la séance de tir au but, rentrer dans la tête des tireurs en faisant tout ce que Jérôme a décrit.
Ah, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que.
Jérôme, ça te gêne.
Bah non, il y a beaucoup de gardiens aussi qui ont un petit peu leur mimique, leur façon de faire. Ils bougent, ils lèvent les bras, ils respectent pas. L'arbitre vient le voir une fois, deux fois, trois fois. C'est pas le seul gardien à faire ça. Donc, il joue aussi un poker menteur avec le tireur qui leur impose.
Ça, c'est le jeu pour toi.
Oui, ça fait partie du jeu. Il répond aux provocations aussi du public, machin, tout ça. Après, il y a des choses qu'il peut s'abstenir de faire aussi sur un terrain, quoi. Moi, je l'ai vu à maintes reprises, je le vois aussi en PL. Et bizarrement, en PL, il est beaucoup plus calme avec l'équipe nationale ou lorsqu'il joue sur les joutes européennes, parce qu'il sait qu'il se sait très regardé.
Moi hier j'ai trouvé plus calme
qu'il va se faire défoncer. Exactement. Donc quelque part, moi c'est pas ma tasse de thé Martinez, donc
D'accord.
Je remets pas en question ce qu'il a fait sur la séance de pénalty. Je remets en question son comportement. Ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui et ça fait pas mal d'années que ça dure. Et
d'ailleurs vous avez vu la petite règle que personne ne connaissait quasiment, c'est le deuxième carton jaune qu'il a pris. On pensait qu'il allait prendre un rouge lors de la séance de tir au but et en fait l'arbitre lui a mis un jaune. Mais depuis la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, et bien une fois arrivé à la séance de tir au but, les cartons sont remis à zéro. Et donc c'est vrai que même Olivier Létang était surpris parce qu'il prend, voilà, il a été voir le quatrième arbitre en disant mais c'est pas normal, il doit avoir un rouge, sa deuxième jaune, c'est une règle qu'on ne connaissait pas. Et lui, je pense qu'il la connaissait parce que je pense pas.
Bah bien sûr.
Mais voilà,
c'est vrai ça. Quand t'as un peu pénalty,
c'est nouveau. Ouais,
bah sinon, parce que sinon la continuité du match, le pénalty.
Par contre, il est suspendu en demi-finale pour le match aller.
C'est sans doute dans l'esprit, ça va pas ce que tu dis, mais c'est ça la règle. Sinon, Martinez dit.
Qui pond des règles aussi bêtes.
Bah, sinon, il aurait pris rouge hier.
Celle-là, elle est complètement bête.
Mais ça fait partie du match, non ? On est d'accord ?
Ah, bien sûr. Bien sûr.
Bah, alors, pourquoi tu le sépares du reste du match ?
Tu as raison. Parle-en à Arsène Wenger, qui est à la FIFA.
Je crois que c'est Arsène qui a décidé de changer ça.
Non, je vais pas aller déranger.
19h21, premier tour des stades. Trois infos autour de vos clubs. On commence par Lyon, qui est donc à Paris à 21h. Dimanche, match particulier pour Barcola, qui va retrouver son ancien club. Il a été question de lui aujourd'hui, Edouard.
Oui, Maxence Caqueret s'est dit ni surpris ni bluffé, pas surpris de ce qu'il a fait notamment à Barcelone parce qu'il a à ses yeux énormément de talent, il sait ce qu'il veut, il est désormais très fort dans ses percussions. Quand je lui demandais un petit peu les progrès qu'il a vus entre ce qu'il voyait l'année dernière à Lyon et aujourd'hui au PSG, et puis pas bluffé, Pierre Sage, parce que il faisait preuve d'une intelligence, je cite l'entraîneur lyonnais, dans sa manière d'organiser son jeu par rapport aux partenaires, il a su mettre ses qualités au service d'une équipe compétitive, voilà ce qu'il fait au PSG, et lui il l'avait déjà vu avec l'équipe réserve de l'OM.
À Monaco, pour ce déplacement à Brest, dimanche à 17h, on va parler de Golovin dans un instant, mais l'infirmerie est un élément clé de la fin de saison, Maxime.
Oui, parce qu'Alexander Golovin souffre d'une entorse de la cheville, saison normalement terminée. Il y a une autre blessure, c'est celle d'Ismaël Jacobs au genou. Côté positif, on va dire, il y a Caio Henrique qui est de retour progressivement à l'entraînement collectif et qui jouera peut-être quelques minutes en fin de saison. Brelem Bolo, lui, pourrait rejouer quelques minutes dès ce week-end. Et il était dans le groupe déjà lors des deux derniers matchs, mais surtout pour déjà retrouver les sensations autour des rencontres et vivre avec le groupe. Mais voilà, les deux dernières blessures, c'est Alexander Golovin et Ismaël Jacobs qui devraient louper cette fin de saison.
À Lens, qui jouera face à Clermont demain à 21h, match très important. Et on parle d'un Francais démobilisé, Djibo.
Non, pas vraiment. Il a voulu justement démentir tout cela hier, okay. Voilà, clarifier la chose hier en conférence de presse. Bon, c'est vrai que Lens n'a pris qu'un point sur les quatre derniers matchs. Hein, défaite contre Nice, contre Lille, contre Metz, surtout la semaine dernière. Metz qui a pris 6 points à Lens, même cette saison, et un nul contre Le Havre. Donc, c'est vrai que face à Clermont, demain, les Lensois seront entendus au tournant. Il a clairement dit hier, je ne suis pas fatigué. Je veux une deuxième Coupe d'Europe d'affilée avec les 100 et or. On sent vraiment, voilà, il a voulu mettre les pendules à l'heure et on le sent très, très motivé, pas démobilisé, parce qu'il y a apparemment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, j'ai pas tout vérifié, qui sont un peu négatifs à son encontre.
Très bien, voilà pour la mise au point. Dans une seconde, la suite du multiplex. Les cadres lyonnais sont-ils les principaux responsables de la remontée? Et l'absence de Golovin peut-elle plomber Monaco? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h28 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme de la semaine avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour et avec tous nos correspondants qui nous lancent cette journée de championnat de Ligue 1. On est là avec Julien Cazard aussi dans 15 minutes avec le quiz pour bien finir l'année. L'année. La semaine en beauté, Jean-Louis.
Là, on est bientôt à la fin de l'année. Hein. Attends, ça rapproche. On est dans le sprint des championnats.
Mais tu te rends compte l'excitation des deux clubs en demi-finale. On va avoir le championnat. Qui va gagner le championnat de France?
C'est une vraie question.
Qui va gagner la Coupe de France? Qui va gagner l'Euro? Ça va être génial.
Qui va gagner les JO? Bon, plein de questions. On est avec Jean Baumel, Edouard
G. Où va aller Mbappé?
Maxime Tillet.
Est-ce qu'il va rester à Paris?
Vraie question aussi, effectivement.
Pierre Sage, je crois, non?
Pierre Sage va-t-il gagner le trophée de l'entraîneur de l'année? Aussi, oui. Vraie question.
Hein?
Pierre Sage, il va être nommé entraîneur de l'année, je pense.
Mais il a vu ce qu'il a fait.
De la demi-année.
Il a pas fait toute la saison.
T'as vu ce qu'il a fait en une demi-saison? Ça suffit pour les votes. Hein.
Ça suffit.
Il sera dans les quatre, je suis sûr.
Ah, d'accord.
Et ce sera mérité. Et tu pourras lui dire.
Et si Jean-Louis Gasset gagne la Coupe d'Europe? Tu pourras lui présenter des excuses. Moi? Par rapport à tout ce que tu as dit sur lui depuis son arrivée.
Ouais, mais Manu, si on fait ça, il y en a trop qui vont s'excuser.
On peut faire le truc que vous avez fait là.
Le grand pardon.
Ouais, le grand pardon.
Mais comment? Des grandes pardon, excuses, là, on peut faire.
Oui, il faut se fouetter. Des excuses. C'est au nom de la rose, tu vois. C'est le mec qui est se fouette, le mec.
Manu, le problème, c'est que moi, je me mouille. Moi, j'attends pas comme vous la fin en disant.
Arrête de te mouiller, tu vois, parce que ça te va pas.
Pourquoi? Alors, toi, Jean-Louis Gasset, avant qu'il signe à Marseille, t'étais en train de me. Tu m'en
rappelles. Je l'ai pas fracassé, moi.
Fantastique.
Je veux dire, moi, je donne la chance aux gens. Tu vois,
tu respectes les gens, tu veux dire, toi?
C'est pas ça. C'est que je vais pas le démonter avant qu'il commence. Ça me rappelle l'équipe de France 98. On s'est fait démonter par une partie de la base avant même de commencer la Coupe.
Après, c'était mérité.
Et après, c'était à 70 ans numéro 1 si t'as jamais gagné un trophée.
Calmez-vous, monsieur Rotten, vous avez tort. Vous avez tort.
Mais comment tort? De quoi?
Son trophée dans fin de l'année sera aussi mérité.
Sors de la piscine. Voilà,
je lui souhaite. Arrêtez tous les deux. Jean Baumel, Edouard G, Maxime Tillet, on reprend notre multiplex et on va parler de Lyon justement et de Pierre Sage. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt les cadres qui sont responsables de cette remontée? Il en a été question aujourd'hui, Edouard.
Ah oui, avec cette question, quand la saison a bien tourné, alors on dit souvent que c'est le mercato à 56 millions d'euros qui a fait la différence, mais quand on a posé la question à Maxence Caqueret, lui, il a rembobiné la saison en mettant deux moments forts en avant. C'était le 3-0 face à Toulouse et les deux victoires consécutives juste avant la trêve. C'était une forme de cadeau de Noël pour tout le monde, puisque les Lyonnais sortaient à ce moment-là de la zone rouge et des 11 fois où ils étaient lanterne rouge du championnat. Et puis, une autre date, le 26 janvier, donc c'est avant vraiment que tous les joueurs du Mercato arrivent, c'était face à Rennes. À la mi-temps, Rennes mène 3-0 et puis il y a un certain Alexandre Lacazette qui prend la parole dans le vestiaire, et ces deux moments clés, Maxence Caqueret justement les souligne comme les moments du rebond de l'OL actuel.
J'ai senti vraiment un changement dans le groupe. Il y a eu des discours qui ont été très importants, comme celui d'Alex à la mi-temps contre Rennes où il nous a motivés, il nous a dit que la saison n'était pas du tout finie et qu'il fallait vraiment s'accrocher. Et je pense que c'est vraiment un tournant de notre saison, parce que après cette première mi-temps à Rennes, j'ai senti vraiment un groupe et un état d'esprit changer. On a retrouvé vraiment une équipe et un vrai groupe.
Hey. Et en termes comptables, ça s'est vu. Hein. Ouais. 10 matchs, 8 victoires, 17 buts marqués, un seul nul, une seule défaite et puis 9 places gagnées au classement.
C'est un peu ce que tu disais, Jérôme. Ce que tu disais déjà à l'époque, c'est grâce aux 4 que Lyon va réussir à s'en sortir.
De toute façon, c'était plus facile de les mettre d'appuyer la tête sous l'eau, de dire voilà, c'est de leur faute, c'est la faute d'un truc, c'est de la faute de Lopez, c'est de la faute de Tolisso, c'est de la faute de Lacazette, c'est de la faute de ceci.
mais pas de la faute des joueurs qui sont autour, qui sont pas des cadres et qui sont limités. Je suis désolé, mais ces joueurs-là l'ont montré déjà dans le passé. C'est que la carrière qu'ils ont fait, ils l'ont pas inventée. Des matchs, des grands matchs, ils en ont fait beaucoup. Ils ont joué dans des grands clubs aussi, parce que pas qu'à Lyon, pour certains. Et à partir de là, on savait très bien que si la Lacazette était bien, était mieux dans sa tête, bien entouré, bien mieux entouré, que l'entraîneur en faisait son général, son capitaine, je pense qu'au bout d'un moment, il aurait fait gagner les matchs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content, parce que moi, c'est déjà un joueur que j'apprécie. Dans sa vista, je trouve qu'il est sous-coté. Trop sous-coté en France. Quand tu vois les stats qu'il a depuis qu'il est revenu à Lyon, et pourtant à un certain âge, en effet, Arsenal, ça s'est pas toujours bien passé, mais depuis qu'il est revenu à Lyon, c'est un exemple. Alors oui, les résultats n'ont pas parlé pour lui collectivement. Je pense qu'il n'est pas venu à Lyon pour jouer le maintien, mais ça a été le cas aujourd'hui. Il a sorti la tête sous l'eau et tout seul. Il n'a pas eu besoin de Pierre-Paul ou Jacques. C'est lui, et Pierre Sage a raison de s'appuyer sur lui, parce que la bonne fin de saison, elle peut être exceptionnelle quand même, cette fin de saison, parce que s'il gagne un trophée, moi je dirais bravo, et automatiquement il sera le grand responsable de ce trophée gagné.
Ouais, moi je suis un peu plus dubitatif sur ce qu'a dit Cacré, parce que s'il faut avoir un discours d'un des cadres à la mi-temps d'un match en deuxième partie de saison, fin janvier, alors que tu es dernier du classement, tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, que tu as été habitué à jouer les premiers rôles et les premières places, et que tu attends que ce soit un de tes anciens qui prenne la parole pour essayer de te convaincre que finalement on a des années-lumière et des obligations.
C'est pas vraiment ça, on se raconte une histoire quand on dit
ça. Parce que sincèrement, ça veut dire que tu t'es trompé de club en fait. C'est pas Lyon qu'il faut que tu joues en fait. Il faut arrêter de mentir.
Manu.
Donc moi je pense que c'est surtout Sage qui a fédéré tout le monde derrière lui avec son staff. Je pense que c'est lui qui a été l'élément déclencheur, et c'est lui qui connaissait très très bien les joueurs, parce qu'il arrivait justement du centre de formation, et je pense que c'est ça qui a été le lien, le ciment qui manquait dans cette équipe.
Sur son discours, c'est impressionnant.
C'est pour ça. Donc moi, Cacré, ce qu'il a dit, je veux bien, mais une remise en question, s'il n'y a pas de remise en question contre l'OL, ne joue pas l'OL.
Edouard, Sage au centre de formation, c'est combien de temps?
Alors il y a eu deux temps, il y a eu les 6 mois la direction de l'académie, donc 6 mois, et puis après il y a eu 2 ans et demi où il s'occupait un peu des U16, des U17.
Donc il les connaît depuis longtemps.
Bah oui, voilà, c'est ça.
Non mais Manu, moi je veux bien, moi.
Vite fait, Jérôme, parce qu'il y a encore deux trois trucs à dire.
On va pas être d'accord
sur Jérôme. Non mais sur Lyon, je suis pas d'accord avec toi, parce que tu me dis s'il faut un discours et tout ça.
Non mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il faut que les joueurs soient convaincus qu'il faut aller.
Change
de métier, quoi.
Va à l'usine. T'as oublié le début de saison de Lyon.
Non, j'ai pas oublié.
Je crois.
Justement, s'ils
étaient aussi mauvais.
C'est fou de jamais
d'accord.
Être d'accord.
Donc, il fallait bien qu'il y ait des gens qui prennent le rôle de leader
qu'ils ont.
Le rôle de leader.
Tu penses vraiment que les 6 premiers mois, ils méritaient de galérer
Mais bien sûr, ils galéraient, ils gagnaient pas un match, et c'était la Bérézina. Et à l'arrivée, l'entraîneur, alors le premier puis le deuxième, il prenait les joueurs cadres, il disait toi c'est de ta faute.
Je pense que le problème était plus sur le banc de touche.
Aujourd'hui, c'était sorti de la zone rouge. Alors moi, je veux bien que vous me dites c'est Pierre Sage. D'accord, il a mis des choses en place magnifiques. Moi, je minimise pas ce qu'il a fait. Mais bien sûr que la tête d'affiche, celui qui t'a permis de sortir la tête de l'eau, c'est Lacazette.
Allez, on
c'est
arrête. Lacazette on arrête
dans
sur
ses
Lyon.
Actes et dans ses discours.
Bon, si tu veux. Je ne suis pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. On va taper le deuxième tour des stades.
Si tu l'as pas,
on a plus de temps.
Il sera là, Lacazette, dimanche, Edouard.
En tout cas, il va avoir du temps de jeu, parce qu'il est simplement revenu hier à l'entraînement. Et hier et aujourd'hui, il n'a pas fait de séance complète. Donc, on va dire incertain. Au mieux, il jouera
encore incertain. Golovin, son absence, Maxime, est-ce que ça peut tout changer à la fin de saison monégasque?
Ah, aussi, vous allez arrêter avec ça.
Quoi?
Avec l'effectif qu'Alex de l'AS Monaco, si c'est simplement Golovin, ils espèrent être champion en Champions League.
Bon, Maxime, vas-y.
C'est le leader.
Manu, respecte le conducteur de l'émission.
Il y a quand même un gros effectif du côté de l'Olympique.
C'est même un des meilleurs joueurs de Ligue 1, Maxime.
Bah oui, bien sûr. S'il passe cette saison, c'est vrai qu'il y a un débat, notamment du côté de Monaco, savoir si, au-delà des stars du Paris Saint-Germain, ce serait peut-être pas l'un des le meilleur joueur de Ligue 1, peut-être.
Pas facile à remplacer, du coup.
Non, mais arrêtez. Ouais, pas facile. Surtout que ces dernières semaines, il a aussi pas mal dépanné comme milieu récupérateur à côté d'un Fofana ou d'un Zakaria. Zakaria nous disait d'ailleurs qu'il travaille beaucoup, on dirait pas, mais il court beaucoup, il gratte beaucoup de ballons. C'est un joueur qui, depuis son arrivée, s'est beaucoup étoffé, a beaucoup évolué, a ajouté cette palette-là à son jeu. Comme le disait Manu, évidemment, Hutter a beaucoup d'options pour le remplacer. Il y a Minamino, il y a Kliouch, il y a Ben Seguir. Il peut aussi s'adapter.
C'est possible,
il
l'a dit tout à l'heure.
Non, c'est certain. Mais il peut aussi s'adapter. Il y a le retour d'Embolo qui donne un peu plus de profondeur sur le poste d'attaquant et donc peut-être retrouver une association Ben Yedder Balogun. Ça donne aussi pas mal d'options pour cette fin de saison. Ils sont pas inquiets non plus, mais c'est vrai que c'est une grosse perte et il y a pas d'équivalent dans l'effectif. Nous a dit Hutter.
Non mais sérieusement, mais moi, je suis
c'est incroyable.
Sans blaguer. Et Hutter, faut qu'il arrête de se foutre de moi aussi, quoi.
Mais attends, Golovin,
on parle du deuxième meilleur effectif de France.
On parle d'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.
Bah oui, mais si Golovin était aussi fort que ça, comme vous le dites, ça ferait longtemps qu'on le saurait, quoi. Je veux dire.
Toi, il n'est pas si fort.
Non, il fait une excellente saison, mais de là à dire que l'avenir et la fin de saison de Monaco dépendraient aussi de l'état de forme de Golovin.
C'est un gros coup de
cœur. C'est manquer de respect à tous les joueurs qui sont à côté de lui, qu'il y en a quand même pas mal qui sont bons quand même.
Mais t'as longtemps été dépendant de ta doublette Caio Henrique Golovin et là tu vas te retrouver sans les deux, quoi.
Ouais. Et bah les autres ils doivent sortir les doigts du cul, je suis désolé.
Ah d'accord.
Ça. Allez, bon, on y va.
Non. Même si t'es désolé, ça sert à.
Non mais je regarde pas là, c'est que non mais ça commence à m'énerver quand je vois l'effectif de l'AS Monaco, quand je vois le nombre de mecs qui se planquent derrière leurs petits doigts en disant bah, on espère que Golovin va nous sauver la saison. Je veux dire c'est à l'image jusqu'à dit Cacré. Mais changez de club, changez de sport, allez faire du je sais pas quoi, putain, mais mettez-vous dans une discipline.
Non mais Manu, où je te rejoins si tu veux sur Golovin, c'est que outre le fait qu'il soit très important dans le dispositif de l'entraîneur.
Moi, Golovin, à part cette saison, j'ai pas vraiment entendu parler de Golovin. Si. Enfin, je sais pas.
Golovin, il a quand même. Manu,
t'es un excellent joueur. Non, mais de là à dire que l'avenir de Monaco, la fin de saison dépend de lui.
Calmez-vous. Non, mais surtout que Monaco aujourd'hui a vraiment toutes les cartes en main pour finir là-haut.
Ils ont l'effectif pour.
Maintenant, l'importance de Golovin, oui. Et t'as raison, Maxime, de dire que le côté gauche était le point fort de l'AS Monaco. Malheureusement, cette année, Caio Henrique, il a disparu à cause de sa blessure. Que Golovin, c'est sur courant alternatif aussi, il faut reconnaître.
Merci.
Donc écoute, ils feront avec, ils ont un effectif pour. Je vois pas. Alors, si derrière Monaco doit se cacher derrière la blessure de Golovin pour dire tiens, mais on n'arrivera pas à arracher une place en Ligue des Champions.
Golovin, qu'aucun grand club européen s'est arraché quoi, ces dernières années. Quoi. Je veux dire, non, mais il faut arrêter. Quoi,
non, mais c'est vrai.
C'est quoi ma phrase déjà de prendre des lanternes pour
des vessies pour des lanternes.
Voilà, vessies pour des lanternes.
Je l'ai dit bien, malheureusement. Allez, merci messieurs.
Merci à la prochaine.
On verra comment
ça se passe. Bon week-end.
Merci Thibaut.
Monaco est à Brest dimanche à 17h, je vous le rappelle. On remercie Jean Baumel, donc Maxime Tilliette et Édouard G.
Et Manu Petit.
Manu se met dans un état comme ça.
Non, mais parce qu'on parle de Monaco.
Mettre avec une mauvaise semaine, Manu. Une semaine trop compliquée. Je veux dire, trop de fatigue, trop de travail.
Moi, je suis prêt à leur envoyer des cassettes à l'époque, tu vois. Galérait pour jouer les titres, faire des finales de Coupe d'Europe, des finales de Coupe de France. Voilà, donc quand je vois comment ils vivent, eux,
pas à tourner la page.
Non, mais c'est pas que j'arrive pas à tourner la page, c'est que je me dis, mais quand tu joues à l'AS Monaco, tu connais le contexte. Donc à un moment donné, il va falloir quand même eux qui soient se tromper sur certains profils.
Est-ce que tu penses qu'ils seraient patriotes? Et c'est la principauté de Monaco, c'est pas la France.
Bah quoi alors?
Viens lui dire ici.
Allez, je me sens monégasque.
La 30e journée.
Je parle des joueurs. Est-ce qu'ils sont patriotes?
Qui ça? Les monégasques?
Bah les joueurs.
Ah, j'en sais rien, moi.
Allez, la 30e journée de Ligue 1, ça commence ce soir. Nice-Lorient, tous les matchs.
Tu viens de en face, tu vas voir.
Tous les matchs en intégralité. Sur RMC, tout au long du week-end, dans une seconde. Le ça quiz, l'affrontement. Roten, Manu Petit, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC. On est là, on est bien. On finit les 2 heures de Roten sans flamme. On finit la semaine, semaine incroyable. Oui, semaine incroyable. Allez-y. Le podcast est déjà disponible. Allez-y. Toute la semaine, ça a été des émissions de malade. Et ce soir aussi, parce qu'il y a eu Mehdi Benatia sur la première heure. Ouais. Donc je vous conseille d'aller réécouter le podcast. C'était une superbe interview. On est avec Jean-Louis Tour, on est avec Manu Petit. C'est l'heure du quiz.
On y va. Manu, plus qu'un quart d'heure à tenir.
Il va faire le quiz tout seul ou il est renforcé?
Non, il est renforcé par Thibaut Giangrande.
Ah, il est là. Thibaut. Salut Thibaut.
Ça va?
Salut Thibaut.
Ça va et toi?
Bonne forme.
C'est l'homme de la libre antenne, de l'afterlife cette semaine.
L'homme qui monte sur RMC. Ah, tu montes toi.
Ah bon?
crois.
Allez, on y va.
Allez, va nous chercher Villas et Oussem.
Contre le reste du monde, saison 3.
En tout cas, Métaverse, c'est lui qui a remplacé Gilbert.
Attends, t'as un peu raté. Refais la blague.
Non, j'ai pas une blague. Je disais que Thibaut dans le Métaverse, il a remplacé Gilbert. Donc il est au top. Il a pas besoin
dans le Métaverse.
Eh ouais, mon gars. Eh, mon gars. Ouais, qui c'est qui joue avec nous, les gars?
Ludovic et Ghislain sont là pour gagner une semaine dans une résidence.
Oh, Ghislain! Oh, Ghislain est là!
Ghislain, cuisinier.
Oh! Ah oui, non. C'est pas Ghislain.
C'est quoi, Ghislain, ta spécialité?
Ouais, je t'ai dit au téléphone, j'avais dit les tomates farcies, mais t'es jamais venu manger.
Voilà,
c'est la bouillabaisse.
Tu es où, Gisley? Tu es où?
Béli-en-Mer.
Béli-en-Mer.
Ah, en Béli-en-Mer, en gros.
Bon, allez, Ludovic, équipe Roten ou reste du monde?
Roten.
Allez,
incroyable.
Ludovic est pâtissier, Gisley est cuisinier. C'est fou, la vie.
Donc, équipe Roten, s'il y a une question de Béli-en-Mer, ça va être génial.
Ah ouais, c'est pour eux. Ludo, pour répondre à Jérôme.
Les choux,
allez, super.
Les choux.
Ghislain avec le reste du monde, on y va.
Le faux plat. Allez, on enchaîne. Question flash. À part Zizou, qui est pressenti pour le poste d'entraîneur au Bayern?
Ralf Rangnick.
Oh oui, Ralf Rangnick. Franchement, bravo. Hein. Surtout de sans se tromper, quoi. Bravo. Ah. C'est qui, c'est Jérôme qui a dit?
Enfin, ouais, Ralf Rangnick. C'est Jérôme,
non, du tout. Oui, c'est Manu.
Quand on lui souffle pas dans l'oreille, il peut pas répondre.
Ah, il est là.
Non, ça chauffe. Jamais,
Momier. Qui que c'est-il?
T'as pas honte.
Attends, qui que c'est-il? Joueur? Quel joueur de l'OM des années 2000 ne prend pas de substances illégales quand il est enrhumé? Quel joueur de l'OM des années 2000 ne prend pas de substances illégales quand il est enrhumé?
Ok.
Pas mal. Mais non, c'est pas lui. C'est quand il est enrhumé. Il prend pas de substances illégales quand il est enrhumé.
Zenden, non.
Il a été en finale de l'Europa League.
Ah oui. C'est bien ce que t'as dit là.
Il a même plutôt marqué les esprits. Hein.
Drogba.
Il se drogue pas. Merci de découvrir le chemin.
Oh my god.
Il y en a des plus ou moins, mais là celui-là, bon. Bravo Julien.
Mais c'est quoi ce sur toi?
Ben moi je peux au moins, tu vois.
parce que t'es souple. Question, c'est abusé, on enchaîne. Oh mais mon vieux, c'est abusé gros. Quel international français de l'époque de Jérôme à Monaco a joué à l'OM quelques années après?
J'y vais.
Bonne réponse.
Bah oui, j'y vais à l'OM.
Non, il n'y avait pas de jeu de mots là.
Là, il n'y avait pas de jeu de mots, mais t'as trouvé quand même.
Il y avait Morientes aussi, mais tu dors toi.
Il y avait Rodriguez aussi.
Il n'est pas international français.
Ah oui,
je Morientes. Jusqu'à preuve du contraire, parce que je veux bien faire des questions pourries, mais à un moment donné,
autant pour
faut réviser la géo.
J'y étais pas.
Demain, ça marche pas le casque.
Il marche pas. Personne n'y souffle jamais.
Vu qu'il est bon en jeu de mots, on va refaire un jeu de mots.
Quoi?
Il a un joker? Non, c'est un contre joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Je suis dégoûté, quoi. Mais bon.
Qui que c'est-il? Quel haïtien marseillais est une contraction de la maire de la ville qu'il déteste?
Hidalgo.
Papin.
Oh la putain. Gagné. Le papin, là, il fait mal. Et c'est une contraction de la maire de la ville.
Oui. De la maire?
La maire de la ville qu'il déteste.
Bonnard.
Eh ben, son nom, c'est une contraction. Comment elle s'appelle la mère de Paris?
Gigo. Hidalgo.
Hidalgo.
Son nom entier. Comment t'as dit?
Hidalgo.
Anne.
C'est quoi son nom entier, Matt de Devier?
Hidalgo.
Mais que tu contractes?
Anno. Anigo.
Anigo.
Anigo. Putain, mais sans déconner. Mais vous êtes. Mais nul. Mais nul.
Bravo Jérôme. Et bravo Julien pour la qualité du quiz.
Oh, je te jure.
Mais tu sais quoi? Ça, c'est quand on trouve pas. Ça, j'adore, moi. Anne Hidalgo, tu contractes, ça fait Anigo. Excuse-moi, c'est extrêmement bien trouvé. Et je remercie tous mes auteurs qui sont avec moi.
Zéro point, quoi.
Kikawège ici.
Il y a 2-2 quand même.
Kikawège. Mais concentre-toi, toi, le gros. Kikawège ici. Enfin. Valenciennes. Sheffield United. Oh,
Sheffield
United. Pas du tout. Olympique de Marseille. Bordeaux.
Buruchaga.
Rennes. Alors, Valenciennes OM, Buruchaga, c'est pas sympa. Même
Laurent
si c'était vrai sur un match. Manchester City, quand?
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 Jérôme, c'est pour toi.
Bordeaux. Ouais.
Galas.
Distant.
Non, Sommeil.
Non,
Sommeil.
Sommeil. Ah, bon, bravo, Jérôme. Bonne réponse, David. Bravo. Sommeil.
Ouais, bah d'ailleurs, on a une pensée pour lui.
Hein. Qu'est-ce qui lui arrive?
Bah, qu'est-ce qui lui arrive, David Sommeil?
Bah oui, David.
Ah, bah, attends, allez, enchaînons, Julien.
Allô? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne?
Non, mais on l'embrasse, on l'embrasse.
Que qui écoute? Que qui écoute?
On y va, Ludovic et Ghislain.
Quel défenseur international belge a joué à l'OM dans la finale de 2004?
Guéret.
Non mais alors, que qui écoute? T'es pas auditeur, Manu? Ou alors tu rends le salaire?
C'est quoi?
Tu rends l'eau, c'est
Van Buten.
Van Buten. Bonne réponse, belle passe D.
Mais alors, qui a répondu?
Magnifique.
C'est Ludo?
On peut accorder un point chacun.
Bravo Ludo.
Non, 4-2. Non, non. Le meilleur buteur, c'est jamais le mec qui fait la passe. Hein. Jamais. Attention, on va faire un qui les unit. Qui les unit. On va prendre, je vais vous donner deux joueurs qui n'ont rien à voir a priori, mais il faut trouver qui les unit. Qu'est-ce qui les unit? Cuadrado et Barthez. Juan Cuadrado et Fabien Barthez, qu'est-ce qui les unit? Il y a un lien avec, avec ce qui se passe à l'OM en ce moment. Cuadrado et Barthez. Ils ont fait un truc. C'est très rare hein, ce qui leur est arrivé. Ils ont vécu chacun un truc.
Ah, finale de Coupe d'Europe, non hein.
Oui.
Expulsé.
Un rouge en
expulsé
finale.
Expulsé en finale de Coupe d'Europe. Ah, oui, Coupe d'Europe. Bonne réponse. Non, c'est bravo les deux. Alors, la Ligue des Champions et l'OTAN, l'Europa League.
C'est ça.
Oh, attention.
En tout cas, Thibaut a bien fait de descendre.
Qui c'est Didon?
J'ai eu la première réponse.
Qui c'est Didon?
Il y a longtemps.
C'est qui? Il y a Thibaut? Jean Grand? Non, le vrai? Génial, quelle chance.
Qui c'est Thibaut? Je prends un joker.
Ouah, il a un deuxième joker. Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors, c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Ah oui.
Alors
oui, je suis là.
C'est bon. Le premier a sa vallée dans les Alpes en Savoie. Mon deuxième se soutient pour avoir un doctorat. Et Montou a été champion avec le club de Deschamps.
Thèse.
Ah non.
Et Montou a été champion quoi?
Mon premier a sa vallée dans les Alpes, en Savoie. Morientes, bonne réponse Morientes de Jean-Louis. La Morienne et de Thèse. Ouh. Question à 2 points.
Oh.
Tu joues, toi?
C'est là, c'est maintenant. D'accord. Là, je suis venu pour la question à 2 points.
Alors, justement, comme c'est une question à 2 points, c'est qui a quoi dans le dos? Pour l'Olympique magnifique, championne de France 2010, à numéro 10.
Lucho, Batles.
Coné. Non.
Lucho Gonzalez.
Non.
Valbuena.
Cherou.
Ah non, pas c'est. Celui qui est parti.
Gignac. Non.
Comment il s'appelle?
Pas Gignac. Pas Gignac.
Thauvin. Non, Thauvin, il était pas là.
Non.
Numéro 10.
International français. International français.
Cherou.
International français.
International.
Aloudia.
International français.
Bah, il dira international français. Français hein.
Putain, oui, mais c'est pas lui, c'est juste pour dire international français.
Ah, Rémi.
Allez, là, il y a 2 points. Comment t'as dit?
Loïc Rémy.
Non. Loïc Rémy, c'est pas ça. Je vais vous aider, il est pas droitier. Il est pas droitier.
Il est gaucher.
Pedros.
Pedros.
Pedros. Il est pas droitier, il est gaucher.
Waddle. Non, c'est pas Waddle.
Ben Arfa.
C'est pas mec. Ben Arfa.
Incroyable, à 20 secondes de la fin, 5 partout, balle de match.
Balle de match. Attention, Geek s'est dit, attends celui-là, il est extrêmement pourri.
Ah oui, parce que c'est
quel joueur d'Aston Villa ne se fait payer qu'en liquide?
Cash.
Jérôme Rotten, yeah, de justesse.
Oh, incroyable.
Bravo Jérôme.
Bon, alors, pourri ta question.
Tout le monde est gros.
Merci.
Victoire de Ludovic qui remporte la semaine de vacances. Bravo Ludo.
Rotten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.